BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good evening business, Guillaume Paul.
18h, il est 18h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Business. Dans l'actualité ce soir, là il y a une grosse séquence intelligence artificielle pour Emmanuel Macron qui reçoit en ce moment à l'Elysée de très grand nom du secteur, avant le début de Vivatech, bien sûr, dans quelques heures à Paris. On va bien sûr vous en parler largement ce soir, mais aussi dans les prochains jours. Rassurez-vous, on verra ça tout à l'heure, notamment avec François Sorel. Sinon, chez nous en France, au milieu de tout ça, il y a donc cette nouvelle réforme de l'assurance chômage dans laquelle le gouvernement a décidé de s'embarquer. La ministre du Travail, Catherine Vautrin, reçoit à partir de demain les partenaires sociaux. C'est le patron de la CFE-CGC, François Omeril, qui sera dans 10 minutes avec Edwige Chevrillon pour nous dire comment voit les choses, lui, particulièrement. De tout cela, on parlera bien sûr avec nos experts qui arrivent dès 18h30. Avec eux, on parlera de cette flopée de grève et de revendications à quelques semaines des JO. Ça s'est passé du côté de la SNCF. Et puis cette plainte, une nouvelle plainte déposée contre Total, entre autres pour atteinte à la biodiversité. Ça n'est pas la première et sans doute pas la dernière du genre. Voilà le programme non exhaustif, bien sûr. On est ensemble jusqu'à 20h sur BFM Business. Bonne soirée.
Good evening business, le journal.
Donc je vous le disais, grosse séquence intelligence artificielle ce mardi pour Emmanuel Macron qui a participé tout à l'heure par visio au sommet international sur l'IA qui se tient à Séoul en Corée et qui là en ce moment organise un mini-sommet sur le sujet à Paris à l'Elysée. Bonsoir Laura Cambeau.
Bonsoir.
Je dis mini-sommet, il y a quand même du très très beau monde en ce moment à l'Elysée, Laura.
Oui, ils sont présents dans la salle des fêtes. Elon Musk, l'ancien secrétaire d'État américain John Kerry, Yann LeCun, le patron de l'intelligence artificielle chez Meta, etc. Il y a aussi l'ancien dirigeant de Google, Eric Schmidt, qui est intervenu. Il explique pourquoi la France peut s'imposer dans l'intelligence artificielle. Je cite, il faut beaucoup d'argent, beaucoup de gens intelligents et un système politique fort. La France dispose de ses atouts. En tout cas, l'Élysée ne veut pas limiter le débat au risque existentiel de cette technologie. Et on le remarque dans les tables rondes qui se déroulent. L'IA au service de l'humanité, l'IA et la recherche scientifique, etc. Selon la secrétaire d'État au numérique, la France espère plus de gains d'emploi que de suppression. Et l'intelligence artificielle pourra, selon elle, permettre de gagner plus d'un point de croissance. Ce qu'on attend surtout, c'est l'intervention d'Emmanuel Macron à la fin de la journée. Il dévoilera ses orientations pour attirer les talents et sécuriser les puissances de calcul et les infrastructures. Parmi les annonces, le président devrait reprendre des recommandations de la Commission sur l'intelligence artificielle, recommandations publiées en mars. Par exemple, il y a le lancement d'un plan de sensibilisation pour que les Français s'approprient l'intelligence artificielle. Il y a aussi l'investissement de 5 milliards d'euros par an pendant 5 ans pour ne pas décrocher par rapport à Shanghai ou à San Francisco. En tout cas, il y a encore du travail à faire puisqu'à l'échelle européenne, en termes d'investissement technologique, Paris est deuxième derrière Londres. En tout cas, Guillaume, bonne nouvelle pour la France. Une nouvelle start-up française spécialisée dans l'IA, elle s'appelle H, vient d'être lancée aujourd'hui. Elle a levé près de 203 millions d'euros auprès de gros investisseurs comme Bernard Arnault.
C'est l'objectif, effectivement, faire une puissance de l'IA, comme l'a dit Emmanuel Macron, qui devrait parler, faire un discours d'ici une demi-heure. On espère pouvoir vous le faire écouter d'ici 20h sur BFM Business. Merci beaucoup, Laura. Laura Cambeau avec nous ce soir dans Good Evening. Emmanuel Macron, qui va donc partir ce soir, s'est confirmé pour la Nouvelle-Calédonie. Il l'a annoncé lui-même ce matin en Conseil des ministres. Il y va, dit-il, pour installer une mission. A-t-on appris un peu plus tard, mais sans plus de précision pour le moment. 18h03, je vous le disais, dans l'actualité, il y a cette nouvelle réforme de l'assurance chômage. La ministre du Travail, Catherine Vautrin, rencontrera à partir de demain les partenaires sociaux. Des partenaires sociaux dont les syndicats qui ont reçu le soutien inattendu d'un petit groupe de députés. Caroline Morisseau.
Les syndicats font front commun pour soutenir une proposition déposée par le groupe Liot. Pour ces députés, plus question que le gouvernement puisse toucher à la durée d'indemnisation sans l'accord des partenaires sociaux. Ils veulent aussi enterrer la modulation des règles en fonction de la conjoncture. Dernière réforme en date qui a déjà entraîné une baisse de la durée d'indemnisation de 25%. Enfin, ils veulent en finir avec les lettres de cadrage mises en place en 2018 qui obligent, selon eux, les syndicats à négocier le couteau sous la gorge. Le groupe Liot n'en est pas à son coup d'essai. En pleine réforme des retraites, il avait déjà tenté de faire tomber le gouvernement en déposant une motion de censure. Tout s'était joué à 9 voix près. Cette fois, l'un des responsables Liotte se dit confiant. On a le soutien de la gauche et cette réforme divise au sein même de la majorité. Le calendrier enfin pourrait peser en sa faveur. Le sujet arrivera dans l'hémicycle le 13 juin, jour où le groupe Liotte peut imposer son ordre du jour. Ce qui signifie que le texte sera débattu en commission la semaine d'avant, à quelques jours des élections européennes. De quoi pense-t-il convaincre les députés RN de se rallier à leur cause?
Voilà, les syndicats remontés bien sûr comme des pendules. Et je vous le disais, François Omeril, le patron de la CFE-CGC, qui sera reçu demain, sera tout à l'heure, hein, dans quelques minutes, sur le micro d'Edwige Chevrillon. Dans l'actualité des entreprises, ça bouge, c'est Atos. D'après nos informations, Daniel Kretinsky va améliorer son offre de reprise. Il discute avec les créanciers du groupe pour effacer moins de dettes que les 4 milliards d'euros prévus dans son projet. Il est prêt aussi à augmenter le montant des plus-values de cession qu'il reversera aux créanciers. Sa nouvelle proposition doit être présentée dans le courant de cette semaine. Mais si le dossier vous intéresse, vous allez lire les informations de Mathieu Pechberti sur notre site bfmbusiness.com. Bonne nouvelle pour Ariane 6, c'est confirmé, le vol inaugural de la nouvelle fusée aura bien lieu au cours de la première quinzaine du mois de juillet. C'est ce que nous a dit en tout cas l'Agence spatiale européenne aujourd'hui. La date précise sera connue début juin. Le premier vol, je vous le rappelle, aura dû avoir lieu dès l'année 2020. Et puis on a appris que le vendeur de voitures en ligne britannique Cazoo, sponsor, vous l'avez peut-être remarqué, de plusieurs équipes de foot entre autres, Cazoo a été placé aujourd'hui en redressement judiciaire. Le groupe emploie un peu plus de 200 personnes. Et puis, voilà en revanche un groupe britannique justement, qui est en pleine confiance. C'est le labo pharmaceutique AstraZeneca. Il nous a dit ce matin qu'il espérait doubler tout simplement son chiffre d'affaires d'ici 5-6 ans. Il mise beaucoup sur ça, en particulier dans le domaine de la lutte contre le cancer. Hélène Cornet.
AstraZeneca vise les 80 milliards de dollars de chiffre d'affaires d'ici 2030. C'est pratiquement le double de celui de l'an dernier. Pour y parvenir, le laboratoire veut lancer 20 nouveaux médicaments dans les maladies rares, la biopharmacie et surtout dans son domaine de pointe, l'oncologie. Le groupe a déjà dans son portefeuille des produits phares contre le cancer du sein ou celui du poumon. Selon son directeur général, certains de ces nouveaux médicaments ont le potentiel de générer plus de 5 milliards de dollars de ventes annuelles. C'est une nouvelle ère de croissance qui s'ouvre, dit-il, car comme ses concurrents, AstraZeneca est confronté à la perte progressive de certains de ses brevets. Pour accélérer la cadence, le groupe pharmaceutique a annoncé la construction d'une nouvelle usine de production à Singapour pour 1,5 milliard de dollars. Le pari est-il trop risqué? En tout cas, Pascal Sorio a réussi depuis son arrivée aux commandes il y a 12 ans à multiplier par 5 la valorisation du groupe. C'est deux fois plus désormais que GSK ou Sanofi.
Les ambitions très fortes d'AstraZeneca dans le monde dans les prochaines années. Hélène Cornet avec nous sur BFM Business. 18h07, on va sur les marchés tout de suite retrouver Étienne Brack depuis Euronext, bien sûr, à la Défense pour BFM Business. Bonsoir mon cher Étienne, on a terminé en baisse, si je ne m'abuse. Bonsoir. Sur le CAC 40 ce soir.
En effet, c'est même la plus forte baisse du CAC 40 depuis le 2 mai dernier. Donc vous voyez, c'est quasiment la plus forte baisse en l'espace de 15 jours avec un CAC 40 qui revient à 8141 points ce soir au fixing. De faibles volumes d'échanges, beaucoup d'attentisme avant Nvidia. Ça sera bien sûr la publication de la semaine demain soir à Wall Street. Donc en attendant, il y a beaucoup d'attentisme. Trois indices américains qui ne font pas grand-chose. Du côté des publications marquantes du jour, à noter Generali à Milan qui perd quasiment 2% avec une publication légèrement en dessous des attentes. Vous savez, les catastrophes naturelle, forcément, ça pèse sur le bilan des assureurs avec 30 millions de dégâts au premier trimestre contre 10 millions l'année dernière et puis dans le même temps des hausses de prix qui peut-être commencent à bloquer pour le groupe. Donc suite à cela, la valeur perd du terrain. Après, il faut l'admettre, un très beau parcours depuis le début de l'année. À noter l'once d'or qui baisse un petit peu, 2427 dollars, quand le pétrole rebaisse également à 82 dollars ce soir à la clôture. Et donc la Bourse de Paris qui clôture en baisse 0,67% de baisse ce soir à la clôture à 8141 points.
Merci beaucoup Étienne. Étienne Brack, donc Euronext La Défense pour BFM Business. On regarde rapidement ce qui se passe du côté de Wall Street à la mi-séance. C'est très calme. Le Dow Jones qui fait du surplace, 39 813 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui est quasiment stable également. C'est très très calme, 16 793. Tout ça à la mi-séance. 18h09. Sur BFM Business, c'est donc François Omeril, le président de la CFE-CGC, qui est l'invité d'Edwige Chevrillon. C'est la grande interview dans un instant. À tout de suite.
BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. On va parler évidemment du tour de vis social avec cette réforme de trop ou pas de l'assurance chômage. Bonsoir François Mouiller.
Bonsoir, merci de votre invitation.
Merci d'être avec nous. Vous êtes président de la CFE-CGC. Vous deviez être reçu demain au ministère du Travail par la ministre du Travail. Finalement, ça sera demain, mais je vous demanderai un peu des précisions parce qu'il y a pas mal de scénarios et on voit en fonction de là où on met le curseur, on voit que ça rapporte 400 millions, et ça peut aller jusqu'à rapporter 7,3 milliards, mais évidemment, là, c'est un sacré tour de vis. J'imagine que vous avez des idées et des informations sur cette question. D'abord, on l'a appris tout à l'heure en Conseil des ministres, Emmanuel Macron part ce soir pour la Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'il vous demandait, un peu comme Patrick Martin, le président du MEDEF, des mesures sociales, un peu comme nous, ce qu'on a connu au moment de la Covid, sachant que je crois, vous me le disiez à l'instant, du reste, que votre syndicat est le premier syndicat en Nouvelle-Calédonie?
Oui, c'est exact. La CFE-CGC est le premier syndicat représentatif sur l'île. On en est très fiers, mais ça crée aussi des responsabilités. Les problèmes aujourd'hui, on les connaît, c'est transport, alimentation, éducation. Tout est fermé, les gens sont confinés chez eux. Et vous voyez, j'emploie le terme confiné. Ça nous rappelle, effectivement, c'est pertinent, la situation qu'on a connue en 2020, toutes choses étant différentes par ailleurs. Et il me semble assez adapté que le gouvernement réfléchisse à des moyens d'aider les secteurs économiques par des dispositifs adaptés au fait que beaucoup de gens, dans beaucoup d'entreprises, sont empêchés d'aller travailler, c'est le terme, là encore. Après, pour le reste, techniquement, moi, je ne sais pas comment ça peut se mettre en place, mais il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, sur cette île, il y a un peu moins de 270 000 habitants. C'est une population qui est plutôt en baisse ces dernières années. C'est pas du tout la démographie galopante qu'il y a dans d'autres territoires d'outre-mer. Donc, on a quand même aussi une problématique économique sur laquelle je crois qu'il faut être assez prudent. Il y a sur place des entreprises, il y a des gens qui travaillent, dont c'est la vie, et qui aujourd'hui sont assez préoccupés effectivement de l'avenir.
Donc quand vous dites confiné, il faut des mesures telles que nous on a connues ici avec la Covid, des mesures de confinement, enfin les mêmes mesures qu'on a.
Non mais aujourd'hui les gens sont confinés pour des questions de sécurité, tout simplement ils peuvent pas voyager et du coup l'activité économique s'est arrêtée, indépendamment du fait que des magasins ont été détruits, etc. Un détail d'ailleurs que je connais pas parfaitement, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que quand l'activité économique s'arrête, bien il faut mettre en place des dispositifs adaptés à supporter la vie des gens. Voilà, leur mettre à disposition des moyens pour s'alimenter, se transporter, et il y a la question éducative, c'est pas neutre, hein. Il n'y a plus d'école depuis une semaine. Il faut y penser aussi, parce qu'on arrive à la fin de l'année.
Autre sujet là qui a provoqué une belle pagaille en Île-de-France. Déjà que Paris croule sous les embouteillages et complètement bloqué à cause des Jeux Olympiques. Mais du coup, ça, c'était la SNCF. On a l'impression que là, on est un peu une sorte d'escalade pour avoir des primes, toujours des primes, encore des primes. La RATP en a obtenu, la PHP en a obtenu. Là, maintenant, c'est la SNCF parce que demain, il y a une réunion importante avec les agents. Est-ce que vous comprenez ce qu'ils disent un peu? Mais enfin, c'est un côté un peu scandaleux, non? Cette espèce de...
Non, moi, je ne suis pas du tout sur ce registre-là. Moi, j'imagine. Je pense, contrairement au gouvernement qui en parle beaucoup, que c'est dans le dialogue social qu'on trouve la solution. Sauf que dans beaucoup d'entreprises, aujourd'hui, les dirigeants fonctionnent à l'image du gouvernement. C'est-à-dire qu'ils parlent dialogue social, puis en fait, ils ne le pratiquent pas. Ils pensent qu'ils sont
assez
forts.
Vous pensez à la SNCF ? Il n'y a pas de dialogue social à la SNCF ?
Alors, en l'occurrence, à la SNCF, non. D'ailleurs, c'est assez drôle. C'est que pour le coup, il y a un vrai dialogue social, il y a un résultat, il y a des accords qui sont négociés, qui sont signés. Évidemment, ça ne plaît pas au gouvernement. Oui. Parce que ça ne va pas dans la façon dont ils voudraient.
Oui, mais sur l'histoire des primes, passent. Là, vous trouvez
que c'est normal? Attendez, moi, je vais revenir. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Moi, je n'ai pas à critiquer ce que telle ou telle section considère comme important. Moi, je pourrais vous trouver mille exemples.
Mais quand même, est-ce que partout, tous les gens, les agents qui vont être mobilisés.
Mais le problème aujourd'hui, c'est quand même le pouvoir d'achat pour tout le monde. Dès l'instant que quelqu'un trouve dans son ressort environnemental les moyens d'un rapport de force qui lui permet d'améliorer son pouvoir d'achat, c'est quand même pas mal. Et moi, je ne vais pas critiquer cette démarche. Je vais, par contre, critiquer ceux qui organisent la baisse du pouvoir d'achat, la baisse tendancielle des rémunérations, la précarité de tout un tas de professions, que ce soit dans la fonction publique ou dans beaucoup de branches du privé.
Donc ça veut dire que vous trouvez que c'est logique, c'est normal, c'est la logique syndicale d'utiliser des Jeux Olympiques, un événement exceptionnel pour obtenir quelque chose.
Moi, je vais vous dire quelque chose. Sur les Jeux Olympiques, il y a eu un chantier qui a duré 5 ans, oui. dans lequel il y a eu une charte sociale qui a été négociée avec les organisations syndicales. Voilà. Avec les organisations patronales, il y a eu un chantier, je ne vais pas dire qu'il est particulièrement exemplaire. Il est exemplaire quand même d'une certaine façon. Il n'est pas parfait. Et en tout cas, les chiffres montrent que quand on respecte les partenaires sociaux, on a des résultats. L'accidentologie sur les chantiers, grâce à la charte, elle a été d'un tiers inférieure à l'accidentologie générale.
Pour les entreprises publiques, dans les entreprises publiques qui ne sont pas concernées par cette charte sociale, on voit. Regardez où ça nous
conduit
aujourd'hui.
Vous me taquinez. Eh bien, vous savez quoi ? Je vous propose quelque chose. Oui. On va faire la liste des primes indues. Tous ensemble, chacun de son côté, on va faire une liste. Moi, je vais faire la mienne. Vous allez faire la vôtre. D'autres personnalités journalistiques ou politiques vont faire la leur. Et après, on va comparer. Moi, ce que je trouve qui n'est pas juste, c'est de considérer tout d'un coup que parce que des personnes utilisent les moyens d'un rapport de force adapté à améliorer leur situation professionnelle ou salariale, tout d'un coup, on dit, regardez, c'est un scandale ce que ça coûte. Vous savez, on vit quand même dans un pays dans lequel les aides aux entreprises, elles ont été multipliées par 3. On est passé de 60 milliards à plus de 200 milliards aujourd'hui de toute nature. Ces aides ne sont pas conditionnées. Ces aides ne sont pas sélectives. C'est quand même de l'argent public. Ouais. Alors moi, j'entends des intervenants qui disent, vous rendez compte, tel accord va coûter 600 millions, etc. Mais s'il faut faire la liste de ce qui coûte à l'argent... en termes d'argent public qui n'est pas justifié et sur lesquels il n'y a pas de retour. Moi, je veux bien qu'on en parle, mais à ce moment-là, il faudra les hiérarchiser. Moi, ça ne m'intéresse pas le troisième chiffre après la virgule si on n'a pas réglé le problème du premier chiffre après la virgule.
D'accord. Donc, vous dites, c'est normal, c'est logique que ça se passe comme ça. Juste un mot. Donc, j'ai cru comprendre. Vous disiez qu'il y a un dialogue social à SNCF. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on le voit. C'est ça qu'a payé Jean-Pierre Farandou, le patron de la SNCF, qui a été remercié par Bruno Le Maire.
Je trouve que c'est un signe des temps. Vous voyez, voilà quelqu'un qui après j'ai pas à juger des positions et des postures de tel ou tel, j'observe qu'il y a un accord, que l'accord il a été signé, qu'il est majoritaire et que d'une certaine façon il crée une forme d'apaisement social. Ça ne plaît pas au gouvernement, mais vous savez, ce gouvernement, j'ai parlé tout à l'heure du chantier et de la charte sociale, quand il reprend la main pour pouvoir justement rentrer dans la phase d'exécution du Paris 2024, qu'est-ce qu'il fait? Il interdit le jour de repos obligatoire, etc. Il crée tout un tas de dérogations au code du travail. Le gouvernement, quand il reprend la main, en fait, il torture le code du travail. Si c'est ça son truc, eh ben, qu'il le fasse, mais qu'il ne vienne pas donner des leçons aux autres, qu'il n'ait pas toujours plein la bouche du dialogue social, etc.
Sophie Binet,
ils n'y connaissent rien.
De la CGT, on en dira un mot tout à l'heure, parce que vous étiez tous ensemble auprès du groupe parlementaire Lyot, qui fait une proposition de loi par rapport à la réforme de l'assurance chômage, on va y revenir. Mais elle dit, ce gouvernement ne sait pas négocier. Vous dites d'accord, vous êtes assis juste à côté d'elle. Vous partagez ce sentiment ?
Ah non, on a un vrai problème avec ce gouvernement. Moi, je ne veux peut-être pas l'exprimer avec les mêmes mots, mais je pense qu'on est assez d'accord sur le fait qu'effectivement, ce gouvernement ne sait pas négocier, ce gouvernement ne sait pas considérer ce que les partenaires sociaux, nous représentons en tant que corps intermédiaire. Et il ne faut pas s'en étonner. Emmanuel Macron lui-même, il a donné le signal il y a 7 ans. Oui. Il a dit, les syndicats, je les veux dans les entreprises. Je ne les veux pas autour de moi. Donc au début... il a donné un peu le change. C'est vrai qu'on a été reçus. Il y a eu, pendant la première période, des phases de concertation un peu factices, mais au moins on a eu des échanges. Les formes ont été respectées. Et ce gouvernement ne respecte même plus les formes. Ouais. Donc voilà, il ne trompe personne.
Il y a une forme de violence, vous trouvez
Il y a une très très grande violence dans la société. Le gouvernement est en partie à l'initiative de cette violence, oui, c'est vrai.
Alors justement, on va parler d'un sujet, évidemment, le sujet qui fâche, cette réforme de l'assurance chômage qui doit entrer en vigueur le 1er juillet. Vous deviez être reçu cet après-midi. En fait, vous serez reçu demain, François Omeril. Il y a trois scénarios. Il y a des scénarios. Oui, c'est vraiment des scénarios, en l'occurrence, sur la table. D'abord, est-ce que vous avez les idées du calendrier ? Là, vous êtes reçu demain. Normalement, vous saurez l'issue des courses quand ?
Personne ne comprend plus rien au calendrier parce qu'aucune forme n'est respectée. L'usage veut que dans la perspective d'un projet législatif, le gouvernement reçoive les partenaires sociaux dans ce qu'on appelle une phase de concertation. Oui. À ce moment-là, le gouvernement met sur la table un projet qu'il a, dont on sait que peu de choses peuvent être changées, mais on peut intervenir, faire des remarques qui nous semblent être des remarques utiles au débat. En l'occurrence, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que le gouvernement a déjà prévu son texte, il n'en n'en changera pas. Et en fait, il habille la démarche d'un certain nombre de rencontres pour la photo, pour pouvoir dire j'ai rencontré les syndicats et pouvoir dire finalement j'ai coché toutes les cases. Mais ça, ça ne marche plus parce qu'on n'est pas dupes quand même. D'autant que d'après ce qu'on sait des mesures qui vont être proposées, en vérité, rien ne fonctionne là-dedans. C'est une mesure, là encore, d'une grande violence qui consiste à spolier, en fait, les assurés du travail contre le chômage, de ce qu'ils ont cotisé pour pouvoir justement s'assurer d'un certain niveau de revenu pendant la période dans laquelle
ils se retrouvent privés d'emploi. Alors ça, vous faites allusion notamment au délai de carence, évidemment, qui touche beaucoup les cadres, hein, puisque vous êtes le président de la CFE-CGC. Juste sur le calendrier, l'actuelle convention, elle se termine fin juin, donc il faut bien qu'il y ait une nouvelle convention le 1er juillet.
En fait, c'est factice. Le gouvernement vous dit il faut légiférer avant le 1er juillet. C'est pas vrai. Il peut prendre un décret de prolongation de 2 mois pendant l'été, etc. Okay. Enfin, tout est possible. Alors, vous savez, on a un gouvernement qui a réussi à faire passer par tous les artifices disponibles une loi sur le décalage de la retraite sans jamais la faire voter à l'Assemblée. Je pense qu'il connaît assez bien les procédures parlementaires.
Donc, pour vous, tout est ficelé, c'est un peu une mascarade.
Alors, tout est ficelé, tout est totalement ficelé pour une réforme totalement populiste, désigner le chômeur comme un bouc émissaire des problématiques économiques que rencontre le gouvernement aujourd'hui et par ailleurs, si possible, piquer un petit peu d'argent dans la caisse. Mais ça, on a l'habitude.
Alors, par rapport aux 3 scénarios qui existent. Il y en a un qui est sur le fait, sur le durcissement des règles, le fait de travailler, il faut pour être indemnisé 7 mois de travail au lieu de 6 sur 24 mois. Ça concerne 11% des allocataires, 400 millions d'économies. Il y a un deuxième scénario qui durcit encore un tout petit peu plus, qui est 12 mois de travail au lieu de 6 sur 24 mois. Ça concerne 31% des allocataires. 2,3 milliards d'économies, puis il y en a un qui rapporte beaucoup plus, qui rapporte 7 milliards 3. C'est là où vous avez 12 mois de travail au lieu de 6, le tout toujours sur 18 mois au lieu des 24. 32% des allocataires concernés. Là, ça concerne évidemment les plus précaires. C'est peut-être là que, peut-être ce scénario très dur sera peut-être exclu. À votre avis, lequel vont-ils choisir?
Je ne sais pas du tout. Vous savez, le truc du gouvernement...
Vous dites tout est ficelé.
Non, mais le truc du gouvernement, c'est de traquer ceux qui profitent. Là encore, moi aussi, je pourrais faire ma liste de ceux qui profitent, qui transforment les aides directes de l'État en dividendes ou en rachats d'actions. Et là, ça se chiffre en milliards. Ouais. Maintenant, je voudrais faire un peu
vous une... Vous connaissez trop l'économie pour dire ça, François Omri.
Mais si, je la connais assez bien, justement. Oui. Parce que je suis dedans, l'économie, dans les entreprises. Et j'en vois bien qui profitent, effectivement, et qui ne jouent pas correctement la règle du jeu. Mais c'est un autre débat. Je reviens sur l'assurance chômage. Qu'est-ce que c'est que l'assurance chômage ? Assurance chômage, c'est une cotisation que les salariés et les employeurs versent dans une caisse pour pouvoir s'assurer un certain niveau de revenus quand ils vont se retrouver privés d'emploi, pour pouvoir chercher du travail dans de bonnes conditions. On sait aujourd'hui, tous les chiffres, toutes les études le montrent, que plus de 90% des gens, à peu près 92-93% des gens, sont parfaitement dans cette cible. C'est-à-dire qu'ils utilisent leurs conditions de revenus et la période dédiée pour pouvoir rechercher un emploi correspondant à leur qualification.
Alors cela dit, il y a des données qui montrent que en fait les chômeurs ils trouvent un job dans les 3 mois qui suivent l'arrêt des indemnités. Donc comme quoi il y a quand même un lien.
Non, c'est pas vrai. Les études ne montrent pas ça. Tout dépend de quelle est la catégorie professionnelle. Vous savez, vous avez des gens. J'ai pris l'exemple ce matin. Prenez l'exemple d'un directeur de magasin chez Casino, par exemple, un groupe qui est en liquidation judiciaire, qui met pas mal de gens sur le carreau, qui habite par exemple en banlieue de Lyon, qui a 55 ans, des enfants qui font des études et qui n'est pas mobile géographiquement. Vous imaginez la situation que ça représente pour lui, la reconversion nécessaire, le temps qu'il faut pour passer les entretiens. Il faut beaucoup de temps. Vous savez, vous envoyez une candidature, vous n'avez pas la réponse tout de suite.
Donc, on a compris, c'est la réforme des trop, mais à votre avis, ils vont choisir quel scénario ?
Moi, je pense que s'ils ont proposé 3 scénarios, c'est qu'ils vont viser celui du milieu. On pense tous cela. C'est la grosse combine des communicants. Ouais. Ils font, vous savez, et Gabriel Attal, qui n'était pas très au fait du dossier, quand il a fait son interview sur TF1 il y a 6 semaines, je crois, il a fait le 20h, sur un ton docte, il dit, voilà, il y a 3 leviers, il y a le premier levier, il récitait sa fiche, il y a le 2 et le 3e, qui n'a pas ma préférence, etc. Enfin, tout ça, c'est du pipeau. Mm. C'est-à-dire qu'évidemment, tout ça est préparé, on conditionne
l'opinion. Parce que lui, en l'occurrence, il était contre la durée la durée d'indemnisation.
Lui, il disait, celui qui n'a pas ma préférence, c'est la dégressivité des allocations. Ouais. Mais il peut bien, effectivement, c'est exactement un dispositif qu'Emmanuel Macron a mis en place, alors même que lui-même déclarait dans son livre Révolution à la page 132 qu'il était contre. Vous savez, on a l'habitude des contradictions de ces gens-là. Alors, c'est insupportable. Juste un mot. Oui. L'UNEDIC est prévu d'être excédentaire aux conditions actuelles du régime. Il est prévu d'être excédentaire à tel point que l'État a prévu de prélever 12 milliards. Mmh. Mmh. 12 milliards qui vont être prélevés dans la caisse, c'est-à-dire dans les cotisations, les droits des salariés.
Mais parce que justement, il a fait des réformes. C'est ça qui a rempli un peu la cagnotte, si on peut utiliser cette
expression. Alors oui, c'est le gros argument. C'est Olivier Dussopt qui disait ça pour la retraite.
Absolument.
C'est grâce à ma réforme que les réserves de l'Agirc-Arrco ont augmenté, donc je vais pomper dedans. Ben non, c'est un argument qui n'est pas recevable. Ailleurs, ce n'est évidemment pas la réforme du gouvernement, les différentes réformes qu'il a fait.
Pardonnez-moi, il y a d'autres
points
comme
ça.
Sur le délai de carence qui pourrait être allongé à 6 mois, ça, j'imagine que pour vous, comme ça touche beaucoup les cadres, notamment la CFE-CGC, donc là...
Alors ça, c'est typiquement la mesure anti-cadre.
C'est une ligne rouge pour vous ?
C'est la mesure anti-cadre. C'est pas une ligne rouge que pour moi, c'est une ligne rouge, j'espère, pour tout le monde. C'est vraiment la mesure, si vous voulez, une des plus révoltantes. Parce que, qu'est-ce qu'on vient nous dire avec cette mesure ? Eh bien voilà, vous avez cotisé toute votre vie, vous êtes licencié, avec des dispositions légales et conventionnelles.
Donc on vous donne
Vous avez liquidé votre compte épargne-temps. C'est quoi le compte épargne-temps ? C'est des jours que vous n'avez pas pris. Vous avez travaillé pendant ce moment-là pour votre entreprise. Et au moment où vous êtes licencié, vous partez dans un plan de départ volontaire, eh bien on vous valorise financièrement le compte épargne-temps. Eh bien ça va être pris sur le différé. C'est-à-dire que pendant tout le temps de la consommation du compte épargne-temps, mais en fait vous n'allez pas être payé. C'est-à-dire que finalement vous avez travaillé pour rien. C'est ça que ça veut dire. Mais c'est juste du vol pur et simple. Et je trouve ça inadmissible même qu'on y pense à cette mesure-là. C'est pareil pour les congés payés au passage. Si vous n'avez pas pris tous vos congés, si l'employeur par exemple décide de vous payer les congés et pas de vous payer en salaire le 13e mois quand vous avez fait un contrat de 12 mois en CDD, eh bien, ça rentre dans le différé d'indemnisation. Vous avouerez quand même que c'est scandaleux. C'est une façon, finalement, de voler de l'argent à des gens qui ont cotisé. Nous, vous savez, on a un principe simple. Toute somme de salaire qui a été cotisée doit produire des droits.
On est dans un dispositif
où on a cotisé et on a de l'antidroit. Ouais. C'est-à-dire, on vous enlève des droits.
François Omeril, il nous reste 2 minutes, c'est pour ça que j'accélère. L'élargissement du bonus-malus à tous les secteurs. Aujourd'hui, il y a 7 secteurs qui sont concernés. Plutôt une bonne chose ?
Bon, ça ne m'impressionne pas, ça ne marche pas, le bonus-malus, c'est du pipeau. De toute façon, non mais attendez, tout le monde le sait. Tout le monde le sait, il est probable que vous recevez au moins une fois par semaine des gens sur ce plateau qui vous disent « mais tout le monde s'en fout du bonus-malus ». C'est vraiment un truc totalement factice.
Alors, cette proposition...
qui a été mis en place pour équilibrer les mesures il y a 5 ans.
Cette proposition du groupe Liotte, en fait, qui vont profiter d'une niche parlementaire, vous avez tous été là pour accompagner justement la présentation de cette proposition de loi qui dit en fait, il ne faut pas toucher à l'assurance chômage sans l'accord des partenaires sociaux. Donc j'imagine que pour ça, vous êtes d'accord.
Ils ont raison. Nous, on se montre très positifs sur leurs initiatives. Il faut reconnaître qu'on renvoie l'ascenseur, parce que le groupe Piot, c'est quand même le groupe qui est venu en support de l'intersyndicale sur les retraites. On a vu le destin que le gouvernement a promis par ses manœuvres en commission à leur proposition de loi. Ici, ils viennent finalement avec une proposition qui est de bon sens, qui est de dire, mais respectez les partenaires sociaux. Vous savez, je vais aller très loin. Aujourd'hui, il y a de l'excédent dans l'assurance chômage. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faudrait considérer, si on faisait confiance aux partenaires sociaux, et les partenaires sociaux se connaissent suffisamment, dès l'instant qu'il y a de l'excédent dans l'assurance chômage, pour moi, ce n'est pas un tabou de baisser les cotisations. Ce n'est pas un tabou du tout. Au contraire, mais il faut accepter le principe que avec un retour à plus mauvaise fortune, il faudra accepter le principe peut-être de les relever. Ce qu'on a toujours fait au passage, en responsabilité, sans que l'État ne vienne ingérer dans notre capacité à prendre des bonnes décisions et des décisions adaptées à la conjoncture.
Merci beaucoup François Omeril. J'imagine que ça va être chaud demain en l'occurrence. Président de la CFE-CGC qui est reçu demain, mais on a compris, vous dénoncez notamment la violence du gouvernement dans ses relations sociales et dans ses réformes. Merci.
Merci à vous.
Good evening business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.
Allez, 18h36 sur BFM Business. Ils sont là, nos experts, la première partie pour refaire l'actu. Audrey Tcherkov est avec nous. Bonsoir Audrey.
Bonsoir Guillaume et bonsoir à tous.
Bonsoir Audrey avec nous, bien sûr, jusqu'à 20h, comme tous les soirs sur BFM Business. Et nos invités, Philippe Vivien est avec nous. Bonsoir Monsieur Vivien.
Bonsoir.
Vice-président du cabinet Alixio. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur BFM Business. Et puis Edwige Chevaillon. Bonsoir Edwige.
Bonsoir.
Ça a été... tonique avec Monsieur Omri.
Comme toujours, voilà, exactement.
Alors, on va écouter, on a ressorti un petit bout, voilà, ça donne la tendance, qui va être reçu demain par Catherine Vautrin dans le cadre de ses concertations en lien avec la nouvelle réforme de l'assurance chômage. Qu'est-ce qu'il nous dit, en gros, François Omri? Bah, qu'il a l'impression qu'il est reçu, mais que les dés sont un peu pipés, quelque part. Écoutez. François Omri, qu'on va écouter dans un instant.
Personne ne comprend plus rien au calendrier parce qu'aucune forme n'est respectée. L'usage veut que, dans la perspective d'un projet législatif, le gouvernement reçoive les partenaires sociaux dans ce qu'on appelle une phase de concertation.
Oui.
À ce moment-là, le gouvernement met sur la table un projet qu'il a, dont on sait que peu de choses peuvent être changées, mais on peut intervenir, faire des remarques qui nous semblent être des remarques utiles au débat. En l'occurrence, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que le gouvernement a déjà prévu son texte il n'en changera pas. Et en fait, il habille la démarche d'un certain nombre de rencontres pour la photo, pour pouvoir dire j'ai rencontré les syndicats et pouvoir dire finalement j'ai coché toutes les cases. Mais ça, ça ne marche plus parce qu'on n'est pas dupes quand même. D'autant que d'après ce qu'on sait des mesures qui vont être proposées, en vérité, rien ne fonctionne là-dedans. C'est une mesure, là encore, d'une grande violence qui consiste à spolier, en fait, les assurés du travail contre le chômage, de ce qu'ils ont cotisé pour pouvoir justement s'assurer d'un certain niveau de revenus pendant la période dans laquelle
alors,
ils se retrouvent.
Bon, force est de constater qu'il est difficile, c'est vrai, de parler de consultation quand on voit que le gouvernement, soit il ne reçoit pas, ou alors quand il reçoit, il n'écoute personne. Edwige, est-ce que c'est votre sentiment aussi, ce rendez-vous avec les partenaires sociaux, c'est seulement pour la photo?
Oui, c'est un petit peu plus quand même, parce qu'on est encore toujours dans un système paritaire, même si aujourd'hui on l'est de moins en moins. Donc il faut quand même recevoir les partenaires sociaux, c'est toujours, est-ce que c'est pour la photo? C'est un petit peu plus, c'est une manière aussi de faire passer des messages, surtout c'est que les positions sont assez différentes des différents syndicats. On prend par exemple celui de François Omri, CFE-CGC, sur les cadres. Vous avez bien vu la violence des mots qu'il a utilisés dès qu'on parle du délai de carence qui fait. Et notamment, alors moi, un point que je n'avais pas forcément noté, peut-être vous, Philippe Vivien, vous, évidemment, vous l'aviez pointé du doigt, c'est que quand vous avez votre CET, qu'évidemment, vous partez, ben à ce moment-là, c'est considéré tout ce que vous avez emmagasiné dedans.
Comme des ressources.
Et ben c'est considéré comme
dans les 6 mois.
Une ressource. Ça rentre dans le délai de carence. C'est ça qui est un peu absurde, y compris les congés payés. Ben ça on le savait, mais ça, c'était, je pense que c'est peut-être pas du tout le même, la philosophie même de ce compte épargne-temps.
Philippe Vivien.
Ben c'est toute la difficulté de modifier les règles du jeu. On sait bien. Alors
ce qui est dans tous les sens.
Exactement. Voilà, dans tous les sens. Voilà, c'est exactement ça, cela. Et ce qui est vraiment dommage, c'est qu'il y a quand même un accord qui avait été signé l'année dernière. Il était ce qu'il était, là encore, avec ses défauts, avec ses qualités, mais au moins les partenaires sociaux avaient réussi à se mettre d'accord sur des points. Est-ce que c'était insuffisant vu du gouvernement? Manifestement, oui. Mais on avait réussi à trouver un accord qui permettait de continuer à avancer. Et je crois qu'un des éléments importants, c'est ça, c'est que plus on va, plus on est en train de tuer ce paritarisme de gestion de l'assurance chômage.
Il y a un accord qui est signé seulement sur le CET. C'est favorisé, on dit que c'est bon, il y a des inquiétudes pour savoir quand on va d'une entreprise à une autre, etc. Mais ce que je trouve un peu particulier, c'est de revenir, voire de détruire, en fait, l'intérêt de cette réforme du compte épargne-temps. C'est ça que je ne comprends pas, la démarche. Est-ce que c'est qu'ils avancent un peu en zigzag? Ils ne savent pas très bien.
Oui, on a un peu l'impression qu'on avance à vue, ça c'est clair. Et par ailleurs, en effet, on vient à peine de mettre en place un nouveau système sur l'assurance chômage, le énième, et on ne se donne pas du tout le temps de le tester, et on revient dessus déjà. Mais c'est quoi? Est-ce que c'est un message qu'on envoie aux agences de notation avec l'échéance, la dernière échéance qui arrive dans les jours qui viennent? Est-ce que vous pensez que c'est ça?
Ça, j'en ai pas la moindre idée, mais en tout état de cause, on ne peut pas continuer à montrer qu'on n'avance pas sur le sujet et qu'on reste. Ouais. Enfin, je veux dire, on ne peut pas se satisfaire tous collectivement d'avoir un plein emploi à 7,5% de chômeurs. C'est pas possible. Enfin, je veux dire, on peut raconter ce qu'on veut, c'est pas tenable pour les uns et pour les autres, et d'abord pour les personnes concernées.
Vous avez vu cette lettre ouverte, pardon?
Oui, allez-y.
Patron du MEDEF.
Oui.
Lettre ouverte à Emmanuel Macron et à Gabriel Attal. Oui. Il suggère des pistes de réforme et notamment un des objectifs, en fait, c'est d'atteindre le plein emploi et d'augmenter le taux d'emploi, je le cite, de 8 points. À ce moment-là, ça nous ferait gagner 10 points de PIB et on ferait 100 milliards d'économies.
Vous savez quoi? On va l'écouter, Patrick Martin, justement, qui pense véritablement que cette mesure peut contribuer à ramener la France vers le plein emploi. Écoutez ce qu'il disait ce matin sur le sujet. Patron du MEDEF.
une option envisageable et elle générera des économies significatives. Il faudra simplement être attentif à ce que les jeunes qui, par définition, n'ont pas la même antériorité, n'ont pas le même accès à l'emploi, ne soient pas pénalisés par une telle mesure.
Vous avez dit économie significative. C'est une réforme pour le plein emploi ou pour renflouer les caisses de l'État?
Ah, je pense que c'est avant tout une réforme pour le plein emploi. Et ce n'est pas par hasard que dans cette fameuse lettre, enfin je dis fameuse, c'est un peu présomptueux, je dis que la réforme de l'assurance chômage sera une des composantes de l'accès au plein emploi.
Patrick Martin, faut-il, selon vous, garder le caractère contracyclique de la précédente réforme de l'assurance chômage, à savoir réduire la durée d'indemnisation quand le chômage baisse, l'allonger dans le cas contraire?
Écoutez, dans l'esprit, ça nous paraît une bonne mesure. Elle est logique d'une certaine manière. Et je reviens sur l'accord que nous avions signé à l'automne dernier avec les syndicats. Il ne remettait pas en cause cette contracyclicité.
Voilà, Patrick Martin, le patron du MEDEF, ce matin.
Eh oui, mais on en revient à ce fameux chiffre quand on se compare avec l'Allemagne. Si on avait le taux d'emploi allemand, eh bien, on aurait plus de déficit.
Ben, je pense qu'on aurait toujours un peu de déficit.
Enfin, en tout cas, beaucoup moins. Un déficit beaucoup plus raisonnable.
Mais voilà, mais en tout état de cause, on serait beaucoup plus manœuvrant.
Ouais. Je cite, c'est ce que cherche Emmanuel Macron depuis qu'il a été élu. Son objectif, l'objectif de plein emploi, c'est ça.
Je cite le chiffre ce matin que donnaient nos confrères des Échos, qui avance une information, qui dit, voilà, l'idée du gouvernement, c'est effectivement de durcir les conditions d'indemnisation. Il faut avoir travaillé 8 mois sur les 20 mois précédents. Si c'est ça... C'est un sérieux tour de vis.
C'est un quatrième scénario par rapport à ce qu'a dit l'UNEDIC.
Par rapport à la prévision l'UNEDIC, là, pour
oui,
le coup.
Oui, absolument. Là. D'après ce qu'avait l'air de François Omeril, mais justement, il restait un petit peu flou, il n'avait pas des certitudes. Lui, il dit qu'il pense que ce sera le deuxième scénario. Alors, le deuxième scénario, c'est 12 mois de travail au lieu des 6 sur 24 mois. Donc, on ne passerait pas à 18 mois. Et c'est ce qui concerne 31% des allocataires.
Oui.
2 milliards d'économie.
L'Allemagne est à ces niveaux-là, si je ne m'abuse. Hein. 12 mois sur les 24 derniers.
Globalement, c'est clair qu'on se rapproche des niveaux des autres pays européens. Ça, là-dessus, y a
et ça nous ferait économiser, par ailleurs, 2 milliards d'euros.
Et c'est pour ça que je crois qu'il ne faut pas opposer le budget, l'économie et le plein emploi. Les deux sont tout à fait dans la même logique. Après, vous l'avez dit, les vraies questions qu'on se pose, c'est comme d'habitude l'accès des jeunes au marché du travail et les éventuelles difficultés de ces jeunes à trouver du boulot aujourd'hui, c'est clair. On n'est pas tout à fait dans la même situation qu'il y a un an ou deux. Et deuxièmement, comme toujours, le taux d'emploi des seniors, faire en sorte que jusqu'au bout, les seniors puissent être en entreprise. C'est vraiment ça l'enjeu.
Je vous repose la question qui était posée à Patrick Martin à l'instant qu'on écoutait. Cette réforme, c'est plus pour faire rentrer de l'argent dans des caisses ou vous pensez véritablement que ça peut être créateur d'emplois, cette réforme? Si on est sur un tour de vis à la hauteur véritablement de ce qui est annoncé ou par
c'est censé être les deux.
Est-ce que ça vraiment ça ramène des personnes en emploi vers le marché de l'emploi? Quand l'UNEDIC nous dit par exemple ce sont les moins de 25 ans notamment et ceux qui sortent de CDI ou de CDD ou de missions courtes, donc les plus éloignés de l'emploi, qui seraient encore plus éloignés de l'emploi.
Quand on augmente le taux de participation, on a une meilleure croissance et par conséquent, une meilleure soutenabilité de la dette et un meilleur taux d'emploi.
Mais est-ce qu'on ramène véritablement du monde vers l'emploi?
Ça dépend à qui vous posez la question. Je veux dire, Philippe Vivien, qui va vous répondre oui. Posez la question à un syndicat ou à François Omeril, il vous dit non.
Non, entre les deux, je veux dire, il y a un point dont on ne parle plus aujourd'hui et dont on parlait il y a encore quelques mois, qui était l'enjeu de la formation. On voit bien que c'est quand même un des sujets qu'on n'a pas totalement traité. Ça avait commencé à être traité, CPF et tout ce qui s'est passé il y a quelques années, premier quinquennat, et aujourd'hui, on voit bien que c'est un sujet qui est moins à l'ordre du jour.
C'est quand même un des mandats de France Travail.
Absolument. Non mais absolument. Simplement, je crois que là, il y a une vraie urgence. Véritablement d'être capable d'apporter à chacun les formations qui vont leur permettre de trouver un job. Je crois que c'est vraiment aussi un point important. Et je pense que les deux doivent être menés en parallèle. C'est ça toute la difficulté. On a toujours tendance dans ce pays à aller un, l'autre, sans regarder comment on va faire matcher, l'ensemble des mesures.
Je pense qu'il y a un problème presque un peu plus général, ce qui fait qu'après, avec toutes ces réformes, ça crée une tension. Mais c'est peut-être la position d'Emmanuel Macron par rapport au dialogue social, en fait. Il a tout de suite annoncé la couleur, souvenez-vous, ses phrases sur les corps intermédiaires, grosso modo, qui ne servent à rien. Ça, parce qu'il préfère que les syndicats soient en entreprise et ne soient pas à mes côtés. Et je pense que tout vient de là. Tout vient de là, de sa volonté, en fait, quelque part, de tuer le paritarisme, enfin, de faire qu'il
oui,
il
reste... Oui, il n'y croit pas, ça c'est clair.
Il n'y croit pas ouais. du tout. Il pense que c'est à l'État de reprendre la convention assurance chômage. Il n'est pas du tout dans le dialogue. Il n'est pas du tout pour qu'il y ait un dialogue qui s'instaure avec les partenaires sociaux sur les grands accords. C'est là la difficulté, peut-être.
Mais alors surtout, juste quand même, parce que sur l'aspect social, l'UNEDIC souligne, et elle est très claire là-dessus, que le durcissement des conditions d'ouverture des droits, elles vont avoir un impact sur qui ? Sur les moins de 25 ans, vous parliez des jeunes, sur les salariés en fin de CDD,
ça,
ou encore sur les salariés en intérim.
Ça, c'est le troisième scénario.
Bah, le deuxième, il les touche aussi. Mais donc, autrement dit, les plus précaires.
Oui, mais c'est pour ça, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, que s'il n'y a pas en parallèle un effort massif sur la formation pour permettre à ces personnes de retrouver rapidement du travail, ben oui. effectivement, on risque de trouver des cas sociaux extrêmement difficiles. Oui. Et je pense qu'on n'a aucun intérêt aujourd'hui dans ce pays à créer, à rajouter de la crise à la crise en partant de ces personnes. Alors après, est-ce que le paritarisme existe encore ? Oui. Enfin, j'ai eu le privilège de présider oui. l'AGIRC pendant pas mal d'années.
Oui, mais c'était il y a quelques années.
Oui, mais on a quand même
quoi.
Réussi à faire en sorte que l'intégrité de la GERCARCO soit maintenue. Ça n'a pas été sans mal. Il y a eu absolument, et côté patronal et côté syndical, véritablement, si je puis dire, un front uni oui. pour cela. Et que je sache, il y a quand même quelques dizaines de milliards aujourd'hui oui. de réserves. On va me dire, c'est normal.
Bah oui. C'est justement ce que...
Non, mais une excellente gestion, oui, il faut le dire. Ouais.
Une excellente gestion et des règles du jeu ouais. formidables qui ont été inscrites en 1947, quand ils ont créé la GERCARCO, expliquant qu'on n'avait pas accès à l'emprunt, donc à la dette.
C'était à mettre à l'actif du paritarisme aujourd'hui, en 2024. Voilà donc pour cette réforme de l'assurance chômage. Début des consultations demain, on suivra ça, bien sûr, de très près sur...
Mais normalement, on doit avoir un accord le 1er oui. juillet, parce que cette convention actuelle
absolument.
Est obsolète à partir fin juin. En même temps, François Omri le disait, mais ils peuvent très bien sortir faire deux décrets pour prolonger, et puis voilà.
Ça va arriver vite. Ouais.
Parce que ça arrive vite le 1er juillet, effectivement.
Oui. Bon, autre sujet de tension, les Jeux Olympiques approchent, et avec bien sûr leur cortège de grève dans plusieurs secteurs en vue d'obtenir de plus grosses compensations pour ceux des salariés qui seront mobilisés l'été prochain. Et aujourd'hui, c'est du côté de la SNCF que ça se passait.
Il y avait une grève en Ile-de-France à l'appel de la CGT de Sudra, et résultat, c'était une journée épouvantable. 480 km de bouchons, s'il vous plaît, ce matin à 9h, c'est du rarement vu. Écoutez, Fabien Villedieu, ce midi, gare Saint-Lazare, Sudrail, il le dit, nous allons continuer à mettre la pression sur la direction de la SNCF, tout simplement.
Mois d'août, là où la plupart des gens vont partir en vacances, et ben nous, on aura beaucoup de trains. En plus, on parle de 4500 trains supplémentaires. Donc ça, c'est des contraintes. C'est des contraintes pour des pères, des mères de famille qui sont en chevillotte et qu'il va falloir justement être au charbon. On parle de 15 à 20 millions de voyageurs qu'il va falloir accueillir, et ben tout ça, ça se paye. Je pense que tout le monde va regarder le taux de grévistes qui a eu lieu aujourd'hui, qui sera, à mon avis, énorme. Si le taux de grévistes est important, c'est parce que les cheminots ont l'impression qu'ils se font rouler dans la farine par rapport aux propositions.
Oui, alors donc les cheminots réclament, parce qu'il faut expliquer donc en sous-titre, des primes JO qui ont été accordées à d'autres secteurs. Donc ils ne demandent pas plus, ils demandent la même chose. Ça vous semble justifié ?
Ben, on a fixé la première règle du jeu au mois de janvier, quand le ministre de l'Intérieur a annoncé 1900 euros pour les policiers et les gendarmes. Oui. Voilà. Donc, grosso modo, tous ceux qui allaient passer après allaient se positionner au regard, globalement, de ces 2000 euros. Et donc, on voit bien que l'ensemble des grandes entreprises, c'est traditionnel, hein, on parle du secteur, je dirais, des transports. Bah, évidemment, dans ces moments-là, c'est un peu compliqué. Est-ce que c'est légitime ? Est-ce que c'est pas légitime ? Je reprendrai pas les mots de François Omeril, mais on est dans, enfin, je veux dire, je vais
dans un bras de fer.
Un mauvais jeu de mots sportif, on est vraiment dans le money time.
Ben oui,
c'est maintenant que ça se joue. Alors, il y a des entreprises qui ont réussi, il y a des entreprises, toutes ont plutôt fait le boulot. Ben,
entreprises publiques, ils ont plutôt lâché, si vous regardez la RATP, PHP.
Oui, mais on ne sait pas combien est-ce que ça va coûter à Bercy, d'ailleurs. Bercy n'a pas
jusqu'à 2500 euros à la RATP, où, évidemment, ça fait des envieux du côté de la SNCF.
Parce qu'il y en a un que j'ai reçu, l'ancien leader de la CGT, cheminot, Bernard Thibault, je ne sais pas si vous vous souvenez. Lui, il a mis au point cette charte sociale la première fois. Ouais. Il y avait une charte sociale pour des Jeux Olympiques. Ouais. Et alors, donc, là, aujourd'hui, il y en a certains qui disent, bah, tiens, où est-ce qu'il est, Bernard Thibault? Il est aux abonnés absents. Lui, ce qu'il m'a répondu, c'est qu'en fait, c'est une charte sociale qui concerne les entreprises privées et pas les entreprises publiques. Voilà. Donc,
Et Bernard Thibault, d'ailleurs, vous a dit ne pas croire à un mouvement d'ampleur.
Oui, c'est vrai.
Mais ça négocie dans tous les sens. Vous disiez effectivement aux policiers gendarmes 1900 euros, RATP jusqu'à 2500 euros, les éboueurs entre 600 et 900 euros, à l'APHP jusqu'à 2500 euros pour les médecins, les fonctionnaires, on n'a pas abouti, les sapeurs-pompiers. Alors les contrôleurs aériens n'ont même pas eu besoin de négocier parce qu'on leur a accordé deux hausses de salaire en fin d'année derrière et fin avril pour faire passer une réforme. Voilà. Ouais. Et ce n'est pas fini, Philippe Vivien.
Mais tout le sujet, c'est ça. C'est que si au moins, au terme de la journée de demain, de négociation de demain à la SNCF, on a clos la séquence, pourquoi pas ? Après, la question, c'est qu'il reste encore quelques semaines. Et il ne faudrait pas, partant du principe que ce qui est à moi et ce qui est à vous est négociable, qu'après avoir donné tout ce qui a été donné, ils viennent de nouveau.
Ah, vous croyez une éventuelle surenchère ?
Je n'en sais rien et je ne la souhaite absolument pas. Ouais. Je pense que les syndicats, ça va être responsable. Mais il ne faudrait pas, par exemple, qu'ils soient dépassés par la base.
On a vu arriver
il n'y a pas très longtemps sur les contrôleurs SNCF des mouvements sociaux qui n'étaient absolument pas lancés par les organisations syndicales.
Et, au contraire,
exactement, qui ont même essayé de.
Oui, mais alors justement, Philippe Vivien, vous qui connaissez ça par cœur, est-ce que, on n'aurait pas pu avoir une anticipation sur ce sujet social pour que ça se fasse dans la sérénité ?
Vous savez, ça, c'est ce qu'on dit quand on observe. Tôt, c'est trop tôt. Quand c'est tard, c'est trop tard. Dans des négociations...
On a 90 jours.
Oui, mais regardez, ils négocient depuis le début de l'année. Ils ont fait tout...
Mais justement, on n'aurait pas pu accélérer les échanges et les décisions.
La réunion de mai était reportée à la demande des organisations syndicales. C'est toujours très compliqué de refaire l'histoire d'une négociation.
Surtout en France, il faut bien le dire.
En France, pas qu'en France.
Enfin, en Allemagne aussi.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Pour avoir négocié en Allemagne, c'est pas simple non plus. Et c'est très conflictuel. Mais une fois que c'est décidé, c'est réglé.
Oui, on espère.
On peut s'espérer.
Et encore des incertitudes du côté d'Air France, notamment. Il peut encore se passer des choses. Enfin, tout ça n'est pas terminé. On verra bien. Il nous reste 3 minutes avant la fin de cette première partie des experts. Maître François Sorel nous a rejoint en plateau. Bonsoir François.
Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir. VivaTech commence demain.
Et oui.
Mais ça commence un peu déjà ce soir dans Tech & Co, François.
C'est vrai. Avec une interview exceptionnelle, alors qui est un peu, décorrélée de VivaTech. Hein, il se trouve que c'est le hasard du calendrier. Je vais recevoir un VP de chez Apple.
Parce qu'il y en a plusieurs.
Sumbul Desai, elle s'appelle.
Bien dit.
C'est la VP santé d'Apple. Monde, donc c'est quelqu'un qui fait partie du board d'Apple. Il faut savoir qu'Apple est très très rare dans ses prises de parole. Ouais. Hein, c'est toujours très compliqué d'écouter des porte-paroles d'Apple, surtout à ce niveau-là. Et on a enregistré l'interview tout à l'heure et pendant 25 minutes, on apprend beaucoup de choses sur la stratégie santé d'Apple. Je vous invite à la retrouver. Ce sera à partir de 20h, de 20h à 20h30. Et on va évoquer un petit peu cette stratégie que ce géant américain est en train de développer, parce que évidemment on connaît les iPhones, on connaît les ordinateurs, mais l'avenir pour Apple, l'un des chapitres de l'avenir, c'est la santé, avec notamment l'Apple Watch et pas mal de fonctionnalités qui arrivent et qui sont totalement révolutionnaires. Et mon invité me rappellera tout à l'heure une petite anecdote d'une jeune femme qui était enceinte et qui a été sauvée par son Apple Watch, parce que l'Apple Watch a détecté qu'elle avait une anomalie cardiaque. Elle est allée chez le médecin.
Incroyable.
Et grâce à cet Apple Watch, en fait, elle a pu garder son bébé.
Ah oui, donc, c'est le meilleur argument de vente
aujourd'hui. Et on va revenir sur cette stratégie qui est assez silencieuse finalement, qu'on connaît peu, mais qui est très intéressante.
Ça, c'est le hors-d'oeuvre. Et puis d'un mot, tout ce qui va se jouer, parce que Tech & Co sera aux avant-postes du côté de VivaTech dans les prochains jours, tous les soirs.
Sûr.
Alors qu'est-ce qu'on va voir, François ?
Plateau donc dédié, nous serons au cœur de ce salon qui devient the place to be, VivaTech. On y sera avec, bien sûr, déjà prendre un peu le pouls de l'innovation à la française. On va parler beaucoup d'intelligence artificielle. On va beaucoup parler aussi d'aéronautique. J'aurai le directeur général d'ADP. J'aurai un porte-parole d'Airbus aussi qui annonce pas mal de choses. On va aussi évidemment parler d'IA avec.
Et de santé, parce que la santé, c'est vraiment très,
bien
très
sûr,
important.
J'aurai Eric Carrel, que vous connaissez sans doute, qui est le patron de WeSings, qui va annoncer alors un truc très intéressant. WeSings s'est associé avec Renault pour annoncer des systèmes de monitoring dans les voitures pour arriver à, comment dirais-je, à analyser votre santé lorsque vous conduisez.
Wow.
C'est un truc de dingue. Et donc, on découvrira
tout ça. C'est la fin de
C'est encore assez secret. C'est encore assez secret, mais il y aura pas mal de choses dans cet acabit. Et puis, bien sûr, on commentera l'actu avec tous nos experts qui seront sur le plateau.
Évidemment.
Donc, Tech & Co, mercredi, jeudi. Vendredi, on enregistrera une émission qui sera diffusée lundi. De quoi je me mêle, et Tech & Co Business, bien sûr, avec l'inénarrable Frédéric Simotel qui sera sur le...
Sur le pont.
Sur le pont aussi.
Et on rappelle que l'objectif de Vivatech et de tous ces événements, quand même, c'est de rappeler que Paris reste un peu la place incontournable et de l'IA, notamment, et de la technologie en Europe, avec des investissements qui restent records en Europe.
Tout à fait, avec ce sommet de l'IA,
en tout cas. Qui a lieu en ce moment.
On en parlera demain.
L'année prochaine en France.
Oui, avec un invité, tiens. Puisque demain, je recevrai Marina Ferrari, qui est la secrétaire déléguée du numérique sur Vivatech. Ce sera ma première invitée. Et évidemment, on débriefera toutes ces annonces qui devraient pas tarder à arriver là.
Ouais. Ben voilà, 8e édition du Vivatech. Oui.
Hein. Juste par rapport à Maurice Lévy, qui était donc le président du Vivatech, qui était mon invité dans l'interview là jeudi. Il y a deux petits changements de taille. C'est que Emmanuel Macron, il viendra pas parce que
il part en Nouvelle-Calédonie.
Par contre, il y a Elon Musk qui n'était pas prévu, qui finalement vient sans doute un peu pour booster.
Alors, il sera en visio, d'après ce que j'ai compris. Ouais. Hein. Enfin, mais c'est déjà bien.
Parce qu'il manquait.
L'année dernière, il était là physiquement.
Oui. Manquait une star. Oui. Il l'avait reconnu sur ce plateau, Maurice Lévy, parce qu'il expliquait que Mark Zuckerberg, il fêtait son anniversaire et il y avait plusieurs anniversaires. Donc, c'est pour ça qu'il.
Oui, enfin, il vous a aussi parlé des sœurs Williams, qui sont un peu les têtes d'affiche.
Voilà, tech, c'est très bien. Elles sont invitées.
Après, Elon Musk en visio, mais c'est quand même.
Sœurs Williams qui s'exprimeront d'ailleurs. Ça sera vendredi aux alentours de 17h
et on vous prépare une émission spéciale.
Et on sera en direct à 17h vendredi pour écouter les sœurs Williams.
Le patron d'Ataiku.
Voilà.
Formidable.
Mais tout le monde est là.
Il sera là.
Tout le monde est là pour cette 8e édition du Vivatech. Ça sera à vivre, bien sûr, sur BFM Business. Merci beaucoup, François. On se retrouve à 20h. Donc, Tech & Co tout
à l'heure. Avec la VP Santé d'Apple. Absolument. Interview rarissime et exclusive.
À ne pas rater.
À suivre, évidemment. À tout à l'heure, François. Philippe Vivien, merci beaucoup. Vice-président du cabinet Alixio. Merci de passer nous voir sur BFM Business. Edwige, à demain, 18h10, bien sûr. 18h57. Bah, nous reviendrons à l'instant.
Oui, on est ensemble en direct jusqu'à 20h. À tout de suite.
Good evening business, actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie. BFM Business présente Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Audrey Tcherkov, Guillaume Paul, Good evening business.
Allez, un peu plus de 19h, c'est reparti, la deuxième heure de Good Evening Business en direct, bien sûr. Bonsoir Audrey.
Rebonsoir Guillaume, rebonsoir à tous.
Dans l'actualité ce soir, donc cette grosse séquence intelligence artificielle pour Emmanuel Macron, qui réunit en ce moment à l'Élysée des grands noms quand même du secteur avant l'ouverture de Vivatech. Demain mercredi, on va en parler bien sûr dans un instant, et puis on en parlera avec nos experts, qui arrivent bien sûr dans un quart d'heure sur BFM.
Et oui, alors avec eux, on parlera aussi de cette nouvelle réforme de l'assurance chômage lancée par le gouvernement. La ministre du Travail a déjà reçu certains partenaires sociaux, alors dans une ambiance plutôt tendue. On réécoutera d'ailleurs ce que nous disait tout à l'heure le président de la CGC, François Omeril. Et puis on parlera bien sûr de cette flopée de grèves et de revendications à l'approche des Jeux Olympiques. Et puis enfin de cette nouvelle plainte déposée à l'encontre de Total Energy, notamment pour atteinte à la biodiversité.
On parlera tout ça avec nos experts. Alors qui sera là dans un quart d'heure? Nathalie Janson, Peronéoma Business School sera là. Henri Sterdignac pour le SEE, le chef d'entreprise. Eric Haddad, voilà le programme non exhaustif. Bien sûr.
Ça nous promet un débat animé.
Good evening business, le journal.
Donc cette grosse séquence intelligence artificielle qui se poursuit du côté de l'Elysée. Emmanuel Macron a participé tout à l'heure par visio au sommet international sur l'IA qui se tient à Séoul. Et là, en ce moment, il organise un mini-sommet sur le sujet à l'Elysée. Bonsoir Laura Cambeau.
Bonsoir.
Je dis mini-sommet, mais il y a quand même du très très beau monde là, à l'Elysée en ce moment. Hein.
Oui, tout à fait. Sans présent dans la salle des fêtes, Yann Lequin, le patron de l'intelligence artificielle chez Meta, le commissaire Thierry Breton et encore l'ancien dirigeant de Google, Eric Schmidt, qui est intervenu, il explique pourquoi la France peut s'imposer dans le secteur. Écoutez.
Il faut beaucoup d'argent, beaucoup de gens intelligents et un système politique fort, un engagement à long terme. La France est unique parmi les pays européens. Vous avez à la fois l'échelle et l'objectif d'être fort dans le secteur. De nombreux pays européens veulent simplement réglementer les inconvénients.
C'est vrai, Guillaume, que l'Élysée ne veut pas limiter le débat aux risques existentiels de cette technologie. On le remarque dans les tables rondes qui se déroulent en ce moment. L'IA au service de l'humanité, l'IA et la recherche scientifique, etc. Selon la secrétaire d'État au numérique, la France espère plus de gains d'emploi que de suppression. Et l'intelligence artificielle pourra, selon elle, permettre de gagner plus d'un point de croissance. À la fin de la journée, on attend l'intervention d'Emmanuel Macron qui dévoilera les orientations pour attirer les talents et sécuriser les puissances puissance de calcul et les infrastructures. Alors parmi les annonces, le président devrait reprendre des recommandations de la Commission sur l'intelligence artificielle publiée en mars. Il y a par exemple le lancement d'un plan de sensibilisation pour que les Français s'approprient l'intelligence artificielle ou encore l'investissement de 5 milliards d'euros par an pendant 5 ans pour ne pas décrocher par rapport à Shanghai ou à San Francisco. En tout cas, il y a encore du travail à faire puisqu'à l'échelle européenne, en termes d'investissement technologique, Paris est deuxième derrière Londres. En tout cas, Emmanuel Macron vient de saluer à l'instant une bonne nouvelle pour la France. Une nouvelle start-up française spécialisée, elle s'appelle H, vient d'être lancée. Elle a levé près de 203 millions d'euros auprès de Bernard Arnault, Xavier Niel ou encore Amazon.
Merci beaucoup Laura Cambeau. Effectivement, Emmanuel Macron qui devait parler. Il y a une petite demi-heure, mais il y a toujours un petit peu de retard, mais on ne désespère pas de vous le faire écouter, bien sûr, d'ici 20h sur BFM Business. Emmanuel Macron qui va donc partir ce soir, c'est confirmé pour la Nouvelle-Calédonie. Il l'a annoncé lui-même ce matin en Conseil des ministres. Il y va, dit-il, pour installer une mission, a-t-on appris un peu plus tard, mais sans plus de précision. Pour le moment, 19h05, dans l'actualité ce soir, je vous disais, il y a cette nouvelle réforme de l'assurance chômage dans laquelle le gouvernement a décidé de s'embarquer. La ministre du Travail, Catherine Vautrin, commencera à recevoir demain les syndicats pour en parler. Des syndicats remontés comme des pendules et qui ont reçu le soutien d'un petit nombre de députés. Caroline Morisseau.
Les syndicats font front commun pour soutenir une proposition déposée par le groupe Lyot. Pour ces députés, plus question que le gouvernement puisse toucher à la durée d'indemnisation sans l'accord des partenaires sociaux. Ils veulent aussi enterrer la modulation des règles en fonction de la conjoncture. Dernière réforme en date qui a déjà entraîné une baisse de la durée d'indemnisation de 25%. Enfin, ils veulent en finir avec les lettres de cadrage mises en place en 2018 qui obligent, selon eux, les syndicats à négocier le couteau sous la gorge. Le groupe Lyot n'en est pas à son coup d'essai en pleine réforme des retraites. Il avait déjà tenté de faire tomber le gouvernement en déposant une motion de censure. Tout s'était joué à 9 voix près. Cette fois, l'un des responsables Lyot se dit confiant. On a le soutien de la gauche et cette réforme divise au sein même de la majorité. Le calendrier enfin pourrait peser en sa faveur. Le sujet arrivera dans l'hémicycle le 13 juin, jour où le groupe Lyot peut imposer son ordre du jour. Ce qui signifie que le texte sera débattu en commission la semaine d'avant, à quelques jours des élections européennes. De quoi pense-t-il convaincre les députés RN de se rallier à leur cause.
Caroline Morisseau, dans l'actualité des entreprises, ça bouge sur le dossier Atos. D'après nos informations, Daniel Kretinsky va améliorer son offre de reprise. Il discute avec les créanciers pour effacer moins de dettes que les 4 milliards d'euros qu'il a prévus. Il est prêt aussi à augmenter le montant des plus-values de cession qu'il reversera aux créanciers. Sa nouvelle proposition doit être présentée dans le courant de cette semaine. Si le sujet vous intéresse, vous allez retrouver toutes les infos de Mathieu Pechberti sur notre site bfmbusiness.com. Une bonne nouvelle sinon pour Ariane 6, c'est confirmé, le vol inaugural aura lieu au cours de la première quinzaine du mois de juillet. C'est ce que nous a dit aujourd'hui l'Agence spatiale européenne. La date précise sera communiquée début juin. Vous savez que le premier vol aurait dû avoir lieu il y a 4 ans, dès l'année 2020. Et puis on a appris que le vendeur de voitures en ligne britannique Cazoo, sponsor notamment de plusieurs clubs de foot européens, Cazoo vient de demander à être placé en redressement judiciaire. Le groupe emploie un peu plus de 200 personnes aujourd'hui. Et puis voilà en revanche un groupe britannique justement qui est en pleine confiance. C'est le labo pharmaceutique AstraZeneca. Il nous a dit aujourd'hui qu'il envisageait de doubler son chiffre d'affaires dans les 5 ans, c'est-à-dire demain. Et il mise beaucoup sur ça, sur la recherche contre le cancer. Hélène Cornet.
AstraZeneca vise les 80 milliards de dollars de chiffre d'affaires d'ici 2030. C'est pratiquement le double de celui de l'an dernier. Pour y parvenir, le laboratoire veut lancer 20 nouveaux médicaments dans les maladies rares, la biopharmacie et surtout dans son domaine de pointe, l'oncologie. Le groupe a déjà dans son portefeuille des produits phares contre le cancer du sein ou celui du poumon. Selon son directeur général, certains de ces nouveaux médicaments ont le potentiel de générer plus de 5 milliards de dollars de ventes annuelles. C'est une nouvelle ère de croissance qui s'ouvre, dit-il, car comme ses concurrents, AstraZeneca est confronté à la perte progressive de certains de ses brevets. Pour accélérer la cadence, le groupe pharmaceutique a annoncé la construction d'une nouvelle usine de production à Singapour pour 1,5 milliard de dollars. Le pari est-il trop risqué? En tout cas, Pascal Sorio a réussi depuis son arrivée aux commandes il y a 12 ans à multiplier par 5 la valorisation du groupe. C'est 2 fois plus désormais que GSK ou Sanofi.
Les grandes ambitions d'AstraZeneca. AstraZeneca, Hélène Cornet, tout autre chose pour terminer. Si vous suivez un peu le foot, vous savez qu'en Italie, l'Inter de Milan vient de remporter le championnat, le fameux Calcio.
L'ironie de l'histoire, c'est que malgré tout, le club est en grosse difficulté financière et qu'il pourrait changer d'actionnaire très rapidement. Justine Vassogne nous raconte l'histoire.
Sauf énorme surprise, l'Inter Milan devrait changer de main. L'histoire remonte à 2021. Le club dirigé par le chinois Stephen Zhang emprunte 275 millions d'euros au fonds californien Oaktree, un prêt destiné à éponger les pertes accumulées pendant la crise Covid et des matchs joués sans public. Trois ans plus tard, avec les intérêts, Stephen Zhang est redevable de presque 400 millions d'euros. Le propriétaire de l'Inter a bien essayé d'empêcher l'inéluctable ces dernières semaines. Il a demandé une extension du prêt que le fonds américain lui a refusé. Il s'est aussi mis en quête d'un nouveau prêteur, mais les négociations n'ont pas abouti. Ce week-end, il s'est fendu d'un long communiqué, une bouteille à la mer selon la presse italienne, accusant Oaktree de compromettre la stabilité financière du club. Resco Oaktree est dans son bon droit et pourrait dès aujourd'hui prendre le contrôle de l'Inter Milan. Le fonds est coutumier du fait. En 2022, il avait ainsi saisi un terrain de 2 millions de mètres carrés appartenant au promoteur chinois Evergrande.
Voilà, l'Inter de Milan, un champion dans la tourmente. Justine Vassogne avec nous sur BFM Business. 19h10. On retourne sur les marchés tout de suite. Étienne Braque est dans la place. Rebonsoir, mon cher Étienne. Je redonne la clôture à la Bourse de Paris ce soir. Le CAC 40 qui a fini en baisse. Hein. Moins 0,67%, 8141. C'est pas chez des choses à Paris. Apparemment, on est en train de s'enquiquiner un peu du côté de Wall Street. Là.
Vous avez trois indices qui ne font parfaitement rien. On est sur un zéro pointé, avec bien sûr Wall Street qui attend avec beaucoup d'impatience les résultats de Nvidia. Ça sera demain soir. Le titre d'ailleurs est en très légère hausse. Alors du côté des sociétés, il se passe quand même des choses intéressantes. Regardez ce qui se passe du côté de JP Morgan qui a perdu 4% hier, qui reprend péniblement 1% aujourd'hui, avec Jamie Dimon qui est quand même le banquier le plus connu actuellement à Wall Street, qui est peut-être un petit peu sur le départ. En tout cas, il se dit proche de la retraite, donc ça rassure pas vraiment les investisseurs, hein, sachant que le titre a pris 40% en l'espace d'un an, qu'il a mené de grandes manœuvres au sein de la banque, et puis surtout un commentaire qui est quand même assez intéressant. Il dit, par rapport à son programme de rachat d'actions, que son action est trop chère pour continuer le share buyback, le programme de rachat d'actions. Non mais ça veut quand même, ça envoie quand même un message assez fort quand le patron d'une banque ne souhaite pas racheter ses actions à $200 au niveau actuel sur des plus hauts historiques. Donc voilà, petit aparté par rapport à cela, mais en effet c'est très calme ce soir à Wall Street avec trois indices qui sont toujours très proches de leur record, et puis surtout le Dow Jones qui est à la porte des 40 000 points à 39 813 points.
Et Nvidia donc ce soir après la clôture.
Demain soir,
ça sera le temps fort effectivement. Là, les marchés attendent ça. La nouvelle star Nvidia qui fait partie des top 3 des capis mondiales aujourd'hui.
En effet, top 3 des capitalisations mondiales avec bien sûr Microsoft, et Apple et donc Nvidia.
Nvidia, la nouvelle star qu'on suivra demain soir bien sûr et toute la semaine sur BFM Business. Merci beaucoup Étienne. 19h12, nous revient avec Audrey Tcherkov et nos experts évidemment jusqu'à 20h. De quoi est-ce qu'on parle. L'UNEDIC, les consultations commencent déjà, mais le ton a été donné. On réécoutera François Auril, bien sûr. Et puis, c'est pas le temps qui est de grève, de revendication à quelques semaines des Jeux Olympiques. Et puis, Emmanuel Macron qui fait débuter Vivatech avec quelques heures d'avance avec cette grosse séquence sur l'intelligence artificielle. Ça se passe en ce moment du côté de l'Elysée. Tout ça jusqu'à 20h, bien sûr. À tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 19h16, on est de retour dans Good Evening Business jusqu'à 20h. Rebonsoir Audrey.
Rebonsoir à
Audrey
tous.
Audrey Tcherkov, bien sûr, avec nous et nos invités. Nathalie Janson, qui n'est pas là, qui va arriver, qui est coincée dans les bouchons. Ben oui, il y a beaucoup de bouchons.
Eh oui, ouais. Mais elle est en chemin.
On parlera de cette grève de la SNCF d'ailleurs dans un instant. Éric Haddad qui est avec nous, bonsoir Éric.
Bonsoir.
PDG du groupe Connect et Henri Sterdignac qui est bonsoir. Avec nous, bonsoir Henri, économiste à l'OFCE, membre des économistes atterrés. Alors ça y est, on rentre dans le dur concernant, vous savez, cette nouvelle réforme de l'assurance chômage dans laquelle le gouvernement a donc décidé de s'embarquer. En tout cas, la ministre du Travail va commencer demain à recevoir les partenaires sociaux, Audrey. Hein.
Exactement. Et alors, elle va recevoir notamment le président de la CFE-CGC, François Omeril, qui est venu donner le ton sur BFM Business et qui a été très cash, comme d'habitude. En tout cas, c'est le moins qu'on puisse dire. Écoutez.
Le gouvernement a déjà prévu son texte, il n'en changera pas. Et en fait, il habille la démarche d'un certain nombre de rencontres pour la photo, pour pouvoir dire j'ai rencontré les syndicats et pouvoir dire finalement j'ai coché toutes les cases. Mais ça ne marche plus, parce qu'on n'est pas dupes quand même. D'autant que d'après ce qu'on sait des mesures qui vont être proposées, en vérité, rien ne fonctionne là-dedans. C'est une mesure, là encore, d'une grande violence qui consiste à spolier, en fait, les assurés du travail contre le chômage, de ce qu'ils ont cotisé pour pouvoir justement s'assurer d'un certain niveau de revenu pendant la période dans laquelle
ils se retrouvent.
Maurice Terdignac, je vous voyais lever les yeux au ciel, mais enfin, on est quand même d'accord pour dire que le gouvernement revient sur un système qui a été mis en place il y a à peine 12 mois, sur lequel les partenaires sociaux se sont mis d'accord. On a quand même du mal à comprendre. On voit pourquoi est-ce qu'on se donne pas le temps de tester ce nouveau système et qu'on y revient tout de suite. C'est quoi ?
Il faut le demander au Premier ministre. Effectivement, c'est une procédure un peu bizarre, c'est-à-dire il y a des mesures qui ont été prises il y a un an, qui ont été votées, il n'y a pas encore les résultats, ou les résultats sont fragmentaires, on sait déjà que ça frappe des jeunes et des précaires, et là on en remet une couche sans bien de justification, puisque d'un côté le chômage recommence à légèrement augmenter, et de l'autre côté, on a l'UNEDIC qui regorge, si on peut dire, qui a un excédent important. Donc, il n'y a aucune nécessité.
Tu en étais aussi.
Plus de 20 milliards. Aucune nécessité de faire ce genre d'opération. Quant à l'endettement, il faut. La dette, c'est passé. Il ne faut pas demander à l'UNEDIC de rembourser la dette alors que l'État lui-même ne rembourse pas.
Mais est-ce que cette nouvelle réforme de l'assurance chômage, c'est un message envoyé aux agences de notation ?
C'est fort possible que ce soit un message envoyé aux agences de notation. Mais aujourd'hui, la problématique, c'est effectivement, comme vous le disiez, quel est l'intérêt à part ? Peut-être de faire passer un message auprès des agences de notation, puisqu'aujourd'hui notre pays est endetté, archi-endetté. C'est une vérité de la palisse. Plus les taux d'intérêt qui ont explosé, c'est ce qui a fait la différence en fait. C'est comme dans une entreprise. Vous avez des taux aujourd'hui où l'argent coûtait pas cher il y a encore un an et demi ou deux, où vous pouviez lever des milliards. L'État levait des milliards comme certaines entreprises, sauf que quand vous passez à que dalle à 4 ou 5%, ça fait très mal. Oui, je pense que c'est ça. Mais aujourd'hui, c'est une aberration pour moi.
Pourquoi c'est une aberration ? Est-ce que vous estimez que cette nouvelle réforme ne se justifie pas ?
Non, elle ne se justifie pas. On n'a pas laissé encore la maturité, en fait, de celle qui a été votée il y a 12 mois.
Oui, mais on a un objectif qui semble s'éloigner, justement, c'est celle du plein emploi à 5%, qui, pour beaucoup d'économistes, paraît désormais inatteignable. Voilà. Inatteignable. Donc, pour vous, ça n'est pas la mesure adéquate. Donc, ça peut pas être une composante du chemin qui va nous mener au plein emploi.
Alors, une composante, peut-être, mais on ne fait pas de la politique pour, je dirais, faire de la politique. On ne fait pas des lois pour faire de la... À un moment donné, il faut arrêter. On a mis en place un certain nombre... cette loi, il y a 12 mois, en fait. Là, on s'aperçoit qu'effectivement, l'objectif du plein emploi ne sera pas atteint. Donc, on décide de refaire, effectivement, une nouvelle loi. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Moi, je pense qu'à un moment donné, effectivement, demain... C'est une réunion qui va servir à pas grand chose. À un moment donné, ils vont peut-être faire passer cette loi comme ils ont fait passer la loi pour les retraites. Et là, moi, ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui, parce qu'on en parlera après tout à l'heure, c'est le sujet, c'est les grèves qui vont...
On en parlera tout à l'heure. Oui, mais alors, si on en revient à cette question, qu'est-ce que ça peut rapporter ? Alors, je donne les derniers chiffres de l'UNEDIC qui vient de les publier. Donc, s'il fallait travailler 7 mois et non plus 6 sur 2 ans pour obtenir une allocation chômage, donc ça toucherait 11% des allocataires qui seraient pénalisés, et le régime économiserait 400 millions d'euros. Est-ce que ces 400 millions d'euros, on en a besoin, ou est-ce qu'on se dit que c'est rien du tout, vu l'ampleur, justement, du déficit, Henri?
On n'en a pas besoin, vu notre déficit. D'autre part, les 400 millions, c'est ce que va économiser l'UNEDIC, mais il y en a une autre partie. Il va falloir quand même financer du RSA pour ces gens qui n'ont plus de...
C'est ça.
Qui n'ont plus de prestations chômage, donc c'est pas glorieux. Et le problème, c'est que ça contribue à détruire notre modèle social, où quand même l'idée c'était que les travailleurs et les patrons se mettaient d'accord sur l'indemnisation du chômage, qui était quand même quelque chose de sympathique. Là, c'est l'État qui prend la main. Et bon, effectivement, on peut se dire l'objectif, c'est les 5% de chômage. Mais est-ce que ces 5% de chômage, c'est comme ça qu'on va les obtenir, ou est-ce que ça ne sera pas plutôt par d'autres politiques de réindustrialisation et de
formation
et de création d'emplois de qualité? C'est quand même ça la question.
Vous avez vu l'info que sortent nos confrères des Échos ce matin concernant le durcissement des conditions d'indemnisation. Pour l'instant, il faut avoir travaillé 6 mois sur les 24 derniers mois pour avoir accès à l'indemnisation. Demain,
8 mois.
Les Échos disent 8 mois sur les 20 derniers mois. C'est quand même un sacré tour de vis, ça, Éric Haddad.
C'est un très, très gros tour de vis.
Si c'est ça qui se dessine véritablement, je veux dire,
Mais je pense qu'ils vont aller effectivement dans ce sens-là. Parce que sinon, quel intérêt, effectivement, de modifier encore cette réforme? Parce que si on doit aller chercher, comme le dit le gouvernement, les 400 millions, bien que je trouve que. Vous savez, moi, au départ, moi, je suis un homme de l'emploi, en fait, puisque moi, je gère un groupe d'intérim. Donc, effectivement, notre volonté, nous, au quotidien, c'est d'éviter que les gens s'inscrivent et restent au chômage. Oui. Donc, les gens qui veulent travailler viennent s'inscrire chez nous et on leur trouve du boulot. Si les gens, aujourd'hui, qui sont au chômage, personnellement, alors, on ne peut pas dire que tous les gens qui sont au chômage sont des fainéants, sont des gens qui n'ont pas envie de bosser ou quoi que ce soit. Il y en a peut-être une infime minorité. Mais à un moment donné, c'est des gens, peut-être, qui se retrouvent aujourd'hui dans des marchés qui sont complètement bouchés. Donc on pourrait éventuellement les aider à se reconvertir dans d'autres métiers, et ce serait peut-être un moyen aussi, en mettant en place des budgets de formation plus importants et des aides à la formation,
eh oui,
pour pouvoir,
vient,
effectivement, peut-être aller gratter ces 400 millions, si je puis dire, qu'on souhaite gratter, mais qui est une goutte d'eau parmi aujourd'hui, effectivement, la dette de l'État. Ça reste une goutte d'eau. Je pense que c'est encore une fois, je pense, une action plus dans l'image de la politique, et comme l'a dit Audrey, un gros appel, effectivement, aux sociétés de notation, en leur disant vous inquiétez pas, la France va bien, la France va très très bien, ouais, ouais. On a des dettes, mais on va trouver des solutions effectivement pour régler ces dettes. Oui. Sauf qu'il y a d'autres services ou d'autres moyens. Quand l'État aura décidé réellement de se réformer, parce qu'en fait c'est comme dans une entreprise, quand vous rencontrez, bonjour, ça va,
quand vous rencontrez l'intelligence, on nous a rejoint sur le plateau,
quand vous rencontrez des difficultés dans une entreprise, vous savez ce que vous faites, en fait, ouais. À un moment donné, la première chose, c'est quoi? C'est que vous reprenez tous vos frais généraux et vous passez en mode cost killer. Ouais. Donc là, vous les descendez. Après, vous avez le problème de la masse salariale, c'est plus compliqué. Et de l'autre côté, si votre chiffre d'affaires se casse la gueule, c'est encore plus compliqué. Oui. L'État, c'est facile. À un moment donné, on a besoin de pognon. Pouf! On fait une réforme, on appuie, on taxe, on retaxe, on retaxe, on retaxe. Mais on n'a jamais travaillé sur les frais fixes. Et ça, peut-être qu'il faudrait se réveiller un jour.
Et on ne ramène pas véritablement vers le marché de l'emploi. Nathalie Janson, effectivement, nous a rejoint après avoir bravé les bouchons parisiens. Bonsoir Nathalie.
Oui, bah voilà, c'est le lot d'être banlieusarde.
C'est ça, rien qui fonctionne. Je vous l'ai fait en accéléré. Faut-il faire cette nouvelle réforme de l'assurance chômage? On est dessus depuis une dizaine de minutes maintenant,
Nathalie. Oui, il y a effectivement des études contradictoires sur le sujet. Je pense que...
Ah, vous ne dites pas non, donc?
Non, je ne dis pas non. Mais peut-être plus global, en tout cas plus en profondeur que ça. Mais c'est vrai que pour la durée de avant l'indemnisation, voilà, on fait pas partie des pays les plus stricts. Donc il y a des pays qui on doit cotiser plus avant de déclencher, en fait.
L'Allemagne c'est 12 mois.
Il y a beaucoup de pays qui sont plutôt à 12.
L'Allemagne c'est 12 mois sur les 24 derniers.
Alors permettez-moi de vous dire que si justement en France on poussait le curseur à 12 mois, ça nous ferait faire une économie de 2,3 milliards d'euros.
Oui.
Alors, donc voilà, là c'est substantiel. On parle plus de 400 milliards d'euros.
Effectivement, quitte à en faire une. Oui.
Donc c'est pour ça que je disais, après ce sont des débats. C'est-à-dire que c'est effectivement, parmi les pays européens, on n'est pas les plus. On fait partie des relativement généreux quant à l'accès. Oui. Est-ce qu'effectivement le problème est là? Est-ce que c'est ça le plus important?
C'est ça, parce que la question elle est là. En fait, dire qu'il faut s'attaquer aux passagers clandestins de cette assurance chômage, je pense que tout le monde est d'accord sur le sujet.
Oui.
Bien sûr que oui. Maintenant, s'y attaquer maintenant et comme ça, aujourd'hui, le sujet en France, c'est que le travail ne permet plus de changer de niveau de vie. On a un vrai problème de pouvoir d'achat, mais si on veut que le travail paye plus, il faut s'attaquer, vous avez commencé à le dire Eric, à la formation. Mmh. Et pour le moment, à part nous parler de France Travail matin, midi et soir, on voit pas grand chose changer.
C'est vrai, ça.
Oui, parce que c'est vrai que sur le marché du travail, enfin, il y avait, j'ai écouté plusieurs fois Stéphane Carcillo qui est bien plus expert que moi sur la question. Effectivement, il disait voilà, à chaque fois qu'on fait une réforme, si on pousse à 6 mois, bah ça sera les contrats et ils commencent à 6. Si on pousse à 12, bah les contrats vont magiquement passer à 12. Ouais. Enfin, on voit bien que de toute façon, ça a un impact sur le type de contrat et la durée. Mais est-ce qu'effectivement, moi, la question que je poserais en non experte sur le marché du travail, est-ce que c'est ça, effectivement, le point crucial pour améliorer le fonctionnement du marché du travail.
Prolonge le point d'Audrey. Effectivement, Henri, est-ce que c'est le problème n'est pas que le travail ne paye pas suffisamment en France, véritablement, pour ramener davantage de demandeurs d'emploi vers le marché du travail, finalement? Est-ce que...
Oui, on peut toujours dire ça. Le problème,
c'est... Le travail ne paye pas assez en France.
Le travail ne paye pas assez. Bon, mais on ne résout pas la question en disant aux chômeurs, en menaçant les chômeurs de les priver complètement...
Oui, c'est ça.
Surtout que là, voilà, on prend un angle bien précis, on s'attaque à une certaine population, en particulier des jeunes, des précaires, et voilà, et on peut penser qu'il y a d'autres mesures possibles. D'un côté, il ne faut pas oublier qu'on a pris des mesures pour mieux contrôler les chômeurs, ce qui veut dire que le discours disant les chômeurs, en fait, c'est des gens qui... se prélassent en attendant que leurs indemnités soient finies. Bah, théoriquement, c'est contrôlé de manière sérieuse. Et là, on n'est pas dans le mythe du chômeur paresseux. Il faut quand même l'éliminer. Et il faut dire, ben voilà, on a quand même la moitié des chômeurs qui sont pas indemnisés. On a des indemnités chômage qui font 1000 euros par mois, c'est pas génial pour prendre des vacances.
Et vous avez raison
et
de
donc,
le rappeler.
C'est peut-être pas la bonne solution.
Pour rappeler ce chiffre, 50%,
évidemment, nous savons tous que la bonne solution, c'est de former les chômeurs et de leur dire voilà, vous êtes chômeur, mais
il y a
tel emploi.
On est en train de vous sucrer les primes à l'apprentissage. Voilà. Voyez un petit peu dans quel.
C'est ce que j'allais dire effectivement. Nous, l'année dernière, on a embauché 80 contrats d'apprentissage sur toute la France. Et là, avec les nouvelles dispositions, je peux vous dire que sur 2024 et 2025, on se pose la question aujourd'hui si on continue en fait à recruter autant d'apprentis. Parce que c'est vrai que c'était aussi un moyen intéressant pour l'apprenti et l'entreprise, parce que vous rentrez dans le monde du travail immédiatement, et nous, l'objectif, c'est de les former pour les garder. C'est pas juste les former, merci, au revoir. Donc, ils font leurs études, et là, effectivement, ils ont supprimé la prime de 6 000 euros.
Oui, mais alors pourquoi justement? Parce que c'était tellement incitatif que tout le monde s'y est mis, et que, victime de son succès, eh bien, ça a coûté trop cher au gouvernement, et donc ils reviennent dessus. Mais c'est un peu étrange, en effet, d'arrêter un dispositif quand il marche très bien.
C'est clair.
Parce que c'était forcément l'objectif.
Mais le problème, il est là, en fait, aujourd'hui, c'est que c'est toujours étrange. C'est-à-dire qu'on met, en fait, des choses en place, et puis on sait pas pourquoi, à un moment donné, au bout d'un an, deux ans, alors que ça marche
trop bien,
on les enlève. Voilà.
Oui, mais quand ça a été mis en place en juillet 2020, Muriel Pénicaud, qui est passé récemment ici, disait que c'était pas censé durer 4 ans non plus. Hein.
Non, mais c'était censé être temporaire, c'est vrai.
C'est vrai. Mais vous savez, c'est comme tout. Quand vous donnez l'habitude aux gens, et après, pour changer les habitudes, c'est beaucoup plus compliqué.
Bon, en tout cas, toujours est-il qu'on s'attaque au fait que le chômage paye moins, au lieu de s'attaquer au fait que le travail devrait payer plus.
Exactement.
Et on envoie un petit signal, vous êtes d'accord? On envoie un petit signal aux agences de notation, à l'électorat de droite, peut-être en vue des élections européennes.
Moi, je ne sais même pas si l'électorat de droite, ça va lui faire plaisir. Je pense que pour ceux qui veulent vraiment réformer l'État, ce n'est pas suffisant. Enfin, c'est toujours pareil. Quoi. On est sur le petit bout de la lorgnette.
Oui, non, mais pour
oui.
Standard & Poor's.
Oui, bien sûr. On est sur le RN. Exactement. On est sur les trucs qu'on affiche, le drapeau qu'on agite du RN qui va aller plus populiste.
Et puis, sincèrement, allô, 400 millions. Qu'est-ce que c'est, 400 millions aujourd'hui? On est surendetté, ne vous inquiétez pas, on va faire une économie de 400 millions. Donc, à un moment donné,
ça dépendra de l'OML Curse.
Ça, ouais, exactement. Ouais.
Allez, 19h30 sur BFM Business.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
19h35 sur BFM Business, nous sommes avec Nathalie Janson, Henri Sterdignac et Éric Haddad, et puis bien sûr Guillaume Paul, on le rappelle.
Oui.
On parle des Jeux Olympiques, ça y est, ça approche, hein, J-90, et donc avec leur cortège de grève dans plusieurs secteurs en vue d'obtenir de plus grosses compensations pour les salariés qui seront mobilisés l'été prochain. Et aujourd'hui, bah, c'était du côté de la SNCF que ça se passait.
Oui, il y avait une grève en Ile-de-France à l'appel de la CGT de Sudra, et résultat, ça a été une journée absolument épouvantable dans toute la région.
400, je confirme.
400... Oh,
bah oui, vous en avez fait les frais.
Attendez. Une centaine de personnes qui n'ont pas pu aller bosser.
480 km de bouchons à 9h. On a rarement vu ça. Écoutez Fabien Villedieu pour Sudrail ce midi lors d'un rassemblement Gare Saint-Lazare qui le dit, nous allons continuer à mettre la pression sur la direction de la SNCF.
Oui. Mois d'août, là où la plupart des gens vont partir en vacances, et ben nous on aura beaucoup de trains. En plus, on parle de 4500 trains supplémentaires. Donc ça, c'est des contraintes. C'est des contraintes pour des pères, des mères de famille qui sont en chevillotte et qu'il va falloir justement être au charbon. On parle de 15 à 20 millions de voyageurs qu'il va falloir accueillir. Et ben tout ça, ça se paye. Je pense que tout le monde va regarder le taux de grévistes qui a eu lieu aujourd'hui, qui sera à mon avis énorme. Si le taux de grévistes est important, c'est parce que les cheminots ont l'impression qu'ils se sont roulés dans la farine par rapport aux propositions.
Bon, ce qui est fatigant, c'est quand même le recours à la grève systématique alors que les négociations sont en cours. Mais je rappelle quand même que les cheminots ne réclament que ce qui a déjà été validé dans d'autres secteurs, les fameuses primes JO. Henri Sterdignac.
Ah oui, c'est encore du chantage.
Ben oui. Non, c'est pas du chantage. C'est... c'est la vie normale des, c'est la vie normale des entreprises. Hein. Il y a un surcroît de travail. Les travailleurs vont devoir travailler plus. C'est pendant les vacances. Un certain nombre vont devoir renoncer à leurs vacances avec les problèmes familiaux que ça pose. Et ils demandent des indemnités en compensation. C'est normal.
Oui,
le gouvernement doit. Et c'est le rôle des RH
de
gérer le truc un peu à l'avant.
Je suis pas tout à fait d'accord avec vous.
Éric, allez-y.
Et ça continue encore et encore. Vous connaissez cette chanson ?
Oui.
Ce n'est que ça. Moi, je vais vous dire.
Et c'est pas d'accord.
Non, et c'est pas d'accord. Moi, je vais vous dire, il y a déjà un an et demi, j'ai dit, à un moment donné, j'avais lancé quelque chose, parce que moi, je suis chef d'entreprise. Ça fait 30 ans que je crée des boîtes, que je crée de la valeur ajoutée, qu'on prend des risques tous les jours. Et j'avais dit, pourquoi que nous, les patrons, en fait, on ferait pas grève. Moi, faire la grève, ça me dérange pas. Non, mais c'est vrai, pourquoi pas ?
Je peux vous dire, ça n'apercevrait pas.
Mais je peux vous dire que. Je peux vous dire que là, le système.
Nicolas Sarkozy, on va couper ça au montage.
Non, mais c'est vrai, je peux vous dire que là, tout serait stabilisé, en fait, parce que là, il n'y aurait plus rien, il n'y aurait plus d'argent qui rentre dans les caisses, et ça serait dramatique. Mais j'exagère, personne ne le fera, on va se faire assigner en tous les sens. Mais qu'on fasse grève. Ok. Oui. Ouais. Mais qu'on prenne pas en otage systématiquement l'autre partie de la population. C'est une minorité, systématiquement, comme dans certaines manifestations, c'est une minorité, systématiquement, qui veulent bloquer un pays. Donc, demander, oui, mais pas de cette façon. Et moi, je vais vous dire, regardez en Italie ce qui se passe. Moi, je vais vous dire, il faut faire changer la loi, parce qu'en Italie, il est interdit de faire grève pendant les périodes estivales et pendant les périodes de grands événements. Ouais. Après le reste, ils veulent faire grève quand ils veulent, mais qu'ils ne viennent pas nous faire chier pour faire grève pendant les Jeux Olympiques ou pendant cette tentative encore d'aujourd'hui.
Ah ben, on est dans le money time, Nathalie Janson, là.
Oui, et moi, ce que je trouve quand même assez déplorable dans cette histoire, c'est. Enfin, je veux dire, c'est pas nouveau, ça fait quand même un petit bout de temps qu'on sait qu'il y a les JO. Mmh. Il est où celui qui fait les RH de la SNCF? Enfin, c'est ça qui est incroyable. Si vous savez qu'il y a un surcroît de travail, qu'effectivement, pour que ça se passe bien, il faudrait les augmenter, pourquoi vous ne faites pas ça avant? Enfin,
que ça se passe au niveau des RH à ce niveau-là.
Enfin, honnêtement, pourquoi?
Non, mais la question sociale, elle aurait pu être réglée en amont, de manière sereine, sans prendre le pays en otage. On était à 90 jours, c'est quand même hallucinant.
Ça me chagrine le plus.
Je vais vous dire, ça aurait été la même chose. Il y aurait eu quelque chose qui aurait été mis en place, ils vous auraient trouvé encore un autre truc. Mais c'est ça le problème, en fait.
Mais si.
Moi, les syndicats, mais je peux vous dire que c'est toujours la même chose. Les syndicats français sont toujours dans la confrontation.
C'est du vécu personnel,
oui.
Ça, Eric.
Mais c'est du vécu, parce que c'est toujours que ça. Vous savez, un jour, on a fait des élections pour mon CSE, avec effectivement pour mettre en place le CSE au sein de mon groupe. Moi, je suis dans l'intérim, donc j'ai eu affaire à la CGT. J'étais intérim, etc. Mmh. Ils sont venus, en fait, envoyer leur profession de foi auprès de tous nos intérimaires, de tous nos permanents. Donc, il y avait presque 5-6 000 personnes qui ont reçu un prospectus, regardez-moi bien, avec la photo d'un vieux monsieur barbu, avec d'un côté le stylo et de l'autre côté le pistolet. Et là, le slogan, c'était « Si vous votez pour cette société, voilà, effectivement, vous allez vous faire exploiter par vos patrons.
Ouais, » C'est de la caricature, ça.
Oui, c'est de la caricature, mais c'est toujours que ça. Il y a des entreprises. Moi, aujourd'hui, je peux vous dire que dans mes entreprises, on discute, on écoute, on essaie de faire des choses. On n'est pas systématiquement dans la confrontation.
Il y a beaucoup d'accords signés dans l'entreprise aujourd'hui.
Oui,
voilà,
ça, je suis d'accord. Oui. Mais attendez, tout dépend de quel type d'accord. Mais je peux vous dire que systématiquement, c'est d'abord la confrontation à chaque fois. Au lieu de se poser, d'éviter de faire grève, qui se pose ? Mais ils auraient toujours demandé encore plus.
Non, mais là...
Il ne faut pas être caricatural. Voilà, il est légitime qu'au JO, ils aient des primes, que ces primes soient relativement importantes.
On les a déjà...
compte tenu des conditions de travail. On peut regretter, par ailleurs, qu'effectivement, aussi bien à la SNCF qu'à la RATP, on a un peu perdu l'esprit service public et l'esprit maison. Mais ce n'est pas simplement la faute des syndicats. Il y a eu un certain nombre de mesures qui ont nui à cet état de... atmosphère de service public qui existait jadis dans ces entreprises. Hein, il faut, lorsque effectivement on
on prend des mesures où on dit, ah ben voilà, les jeunes vont pas avoir les mêmes retraites que les anciens, on embauche des contractuels, etc., des nouveaux statuts. Naturellement, ben, l'esprit de l'entreprise se perd.
Non, mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'un préavis de grève a été déposé pour cet été du côté de la fonction publique, mais pas que, du côté de sociétés comme Air France aussi. Donc, c'est et le public et le privé qui, finalement, jouent ce money time en prenant le pays à partie et en nous prenant un peu en otage à une échéance
hyper importante pour tout. On dit pas prendre en otage, parce que prendre en otage, c'est quand même tragique.
Attendez, Henri, on peut pas parler d'autre chose.
Il y a des otages en Palestine, qui ont un sort tragique. On peut pas utiliser le même terme.
Non, mais pour... On n'est pas dans le même débat. On n'est pas dans le même débat.
Non, mais sans
plus sobrement, comme on disait, comme on dit dans ce genre de situation, c'est le jeu. Voilà, ce que dit Sudrail, c'est que pour l'instant, du côté de la RATP, de la SNCF, on propose 50 euros brut par jour. Voilà. Du côté de la RATP, pardon, on va être entre 1000 euros brut jusqu'à 2500 euros brut pour certains conducteurs. Vous voyez, les policiers gendarmes qui vont toucher 1900 euros, les éboueurs qui vont toucher pour certains d'entre eux jusqu'à 1900 euros, la PHP, les médecins vont recevoir 2500 euros, les contrôleurs aériens ont eu deux augmentations de revenus, de salaires fin décembre et en avril pour qu'on fasse passer une réforme de la profession, les sapeurs-pompiers négocient. Comment voulez-vous que la SNCF...
Sur les médecins, ils partaient loin quand même.
C'est le jeu.
Non, les contrôleurs.
C'est le jeu de la négociation, tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez, Eric ?
Oui, non, mais je veux dire, de toute façon, effectivement, c'est le jeu de la négociation. Mais si à chaque fois, le jeu de la négociation nécessite, et je le répète encore une fois, même si c'est caricaturé, effectivement, la prise en otage des utilisateurs... Là, ça peut pas le faire.
Entreprises qui sont utiles et donc naturellement, ça veut dire que leur grève se remarque. On peut dire que ils sont utiles, ils doivent être payés en conséquence. Et par ailleurs, ce mardi n'est pas un jour exceptionnel, donc c'est un jour où il est légitime de faire grève. C'est pas un jour de grand départ, c'est pas un jour de JO, donc voilà.
On peut espérer en tout cas que personne n'ait l'intention réelle de gâcher la fête et que des accords soient trouvés.
Il nous reste deux mois, donc journée de négociation très importante demain à la SNCF sur ces sujets. On suivra ça évidemment sur BFM Business. Alors demain, donc, c'est le début de Vivatech à la porte de Versailles à Paris. Tech & Co à 20h avec François Sorel et toutes ses équipes sur le pont. Ça a un petit peu commencé déjà cet après-midi, cette affaire, parce que Emmanuel Macron est en train de réunir là les grands noms, certains grands noms de l'intelligence artificielle, dont notamment l'ancien patron de Google, Eric Schmidt, qui est là, qui a dit tout à l'heure, mais oui, la France a les moyens de devenir une puissance de l'intelligence artificielle. Écoutez ce qu'il disait il y a quelques instants, Eric Schmidt.
Il faut beaucoup d'argent, beaucoup de gens intelligents et un système politique fort, un engagement à long terme. La France est unique parmi les pays européens. Vous avez à la fois l'échelle et l'objectif d'être fort dans le secteur. De nombreux pays européens veulent simplement réglementer les inconvénients.
Bon, c'est quand même intéressant cette séquence. On voit bien, ça fait 18 mois à peu près que la France essaye de se forger une réputation solide dans l'IA qu'on appelle générative. Et que par ailleurs, si on regarde, parce qu'on a un peu tendance à se flageller en France, mais si on regarde le montant des investissements technologiques en France, c'est 8 milliards de dollars qui ont été investis dans des entreprises françaises en 2023. C'est 7 en Allemagne. Alors vous allez me dire que c'est moins qu'en Grande-Bretagne. Mais c'est quand même pas mal.
Nathalie, comment est-ce que regarder ces chiffres.
On peut toujours se satisfaire de toute façon d'investissements qui ont été faits. Après, une des faiblesses, comme j'ai souvent souligné, c'est qu'effectivement on ne lève que 8 milliards. C'est-à-dire que même si on est mieux que l'Allemagne, on reste en dessous de ce qui est nécessaire en fait pour pouvoir faire le pas. Et là, on retombe sur les problèmes de financement. Oui. Et là, je sais que je ne serai pas d'accord avec mon voisin d'en face.
C'est-à-dire Henri Stadignac, pour ceux qui nous écoutent à la radio. Ouais.
Puisque, effectivement, je pense qu'on pâtit d'un marché qui n'est pas suffisamment ouvert et étendu. Il n'y a pas assez de capitaux qui circulent en Europe et que c'est notre grande faiblesse par rapport aux Américains.
D'où l'importance de l'union des marchés de capitaux,
exactement.
Vous allez me dire.
Voilà.
Il faut mettre le paquet Henri Stadignac sur l'intelligence artificielle en France, là, comme le dit Emmanuel Macron, qui veut faire une puissance.
Alors là, il se trompe, ce n'est pas les banques qui financent ça. C'est ça qui m'énerve beaucoup. De son propos, c'est vraiment le marché, parce que c'est le marché qui prend, c'est pas les banques.
C'est un pari qui peut. Voilà, on fait le pari.
ça marchera ou ça marchera pas. Peut-être effectivement que c'est une bulle, l'intelligence artificielle. Peut-être que effectivement c'est l'avenir. Donc la France a tout à fait raison d'y investir massivement, surtout qu'on a théoriquement les cerveaux nécessaires pour ça. On a une tradition dans le domaine mathématique et informatique.
Dans le quantique, notamment, est très avancé.
On a une très grande tradition, donc il faut y aller. Voilà, il y a des chiffres qui circulent. Il faut investir 5 milliards par an. Voilà, ces 5 milliards par an, on les a. Je veux dire, on a une banque publique d'investissement, on a BPI France qui peut servir pour amorcer ce mécanisme. 5 milliards, c'est pas grand-chose. On peut avoir recours à l'épargne française qui est massive pour lancer ce genre de projet. On a actuellement un livret A. Il faut un livret livret I pour financer l'industrie et pour financer l'intelligence artificielle.
On utilise déjà l'IA chez Connect, Eric Haddad.
Alors justement, effectivement, parce qu'il y a un vrai sujet sur l'IA. D'abord, il faut y aller. Hein. Il faut foncer, quoi qu'il arrive. Pour moi, ça reste la révolution, comme Internet. À l'époque où Internet est arrivé, c'était tout de suite la grosse crainte, les grandes peurs. Qu'est-ce qui va se passer? On va perdre de l'emploi, on va licencier à tout va, etc., etc. Je pense que l'intelligence artificielle, il faut y aller et il ne faut pas en fait en avoir peur. Ça, c'est clair. Nous, dans notre site myconnect.fr, en fait, on a mis en place effectivement un algorithme via l'IA pour faire des systèmes de matching,
matching
de reconnaissance
effectivement
des profils de CV avec l'entreprise qui recherche en fait à embaucher. Et on la développe de plus en plus. Donc avec des systèmes de learning machine, en fait. Oui. Et c'est vrai qu'on arrive à avoir des outils beaucoup plus performants. Alors c'est vrai que aujourd'hui, on n'arrive pas en fait encore aussi à définir et à voir sur une machine les soft skills. Quoi. C'est vrai qu'on est dans des métiers, en tout cas en ce qui nous concerne, dans le recrutement.
Bien sûr,
donc j'ai besoin de vous voir, de vous regarder dans les yeux, d'échanger, discuter, etc. Ouais. La machine, elle n'est pas encore capable de faire ça.
Pas encore,
mais ça évolue.
Dieu merci.
Mais voilà, pas encore, Dieu merci.
Non, mais je lisais un article très intéressant qui disait que le fait que Paris soit la capitale mondiale du luxe est un levier énorme pour attirer les investissements dans le domaine de la technologie, puisque le luxe est quand même toujours lié à l'innovation. Donc, alors Nathalie, je vous entends sur le fait qu'on est très en deçà de ce qu'il faudrait faire, mais on a des atouts.
Oui, non, mais de toute façon, les atouts ont été rappelés. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Effectivement, l'Europe, elle souffre de ça et de la manie de vouloir réglementer avant que ça se développe. Quoi.
Ouais. Nous aussi, avons...
Et là, d'ailleurs, ce qui était très drôle, c'est que Emmanuel Macron, qui sur le Digital Act était plutôt pro, sur l'intelligence artificielle, il était là, mais il faudrait peut-être attendre. Bon, c'est un peu des positions qui manquent un peu de cohérence.
Commencer par vouloir réglementer avant d'innover, c'est
mais
ça.
Mais c'est vrai que c'est quand même une de nos autres faiblesses. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, on peut pas, enfin, il faut bien y aller. Donc, faut y aller, faut expérimenter, quitte à ne pas réglementer dans un premier temps.
Oui, Henri, je veux dire deux choses contradictoires. Premièrement, c'est que...
Ça ne vous ressemble pas, Henri.
Si. Premièrement, on a des gens très riches, des entreprises très riches, qui pourraient effectivement investir dans l'intelligence artificielle.
Ils le font.
Par exemple, Rudolf Sade, qui a fait des gains fabuleux.
Bernard Arnault sera à Vivatech.
Qui a fait des gains fabuleux.
Ils le font.
Il peut investir ses 17 milliards dans l'intelligence artificielle.
Je vous rappelle que Bernard Arnault est un des fondateurs de Vivatech.
Il y a des entreprises qui ont beaucoup d'argent et qui peuvent investir. Et deuxièmement, je pense que quand même, il faut une certaine réglementation pour que ce soit pas n'importe quoi et que, voilà, quand on dit le matching, ça doit pas reproduire des préjugés existants, donc il faut faire attention.
Il vaut mieux les préjugés vivants, en fait.
Attention à ne pas réglementer avant d'innover, voilà, c'est un petit peu le reproche qu'il nous a fait en ordre. Deux minutes avant votre avis sur cette nouvelle plainte pour homicide involontaire ou encore atteinte à la biodiversité déposée par trois ONG contre Total Energy aujourd'hui devant la justice à Paris. On est à trois jours. C'est ni la première ni la dernière, finalement.
Je pense que c'est une blague.
C'est un signal fort quand même de saisir la justice justement sur ces sujets-là en disant que Total était tout à fait au courant de l'impact de ses actions sur l'environnement et sur la
santé humaine, mais que pire que ça, ils ont entretenu cette fabrique du doute avec un climato-scepticisme. Et le sujet, il est là quand même.
Allez, 20 secondes chacun.
Bon, moi, franchement, j'ai du mal, quoi. J'ai du mal à ce genre de juste à 3-4 jours d'une assemblée générale.
Mais c'est comme les grèves. Hein.
Oui, il faut que ça marche.
C'est un moins de pression, un peu de pression, pour ces trois ONG.
Pour eux, en tout cas, pour elles, c'est carrément.
Personnellement, je les connaissais pas.
Leur conseil en communication, il est très bon.
Donc, personnellement, je les connaissais pas. Donc, j'ai vu ça, je dis, ah, tiens, effectivement, à 3 jours de la jette totale, ils sont présents.
Tiens.
Bon, c'est bien gentil. Ils ont 7 personnes de différents pays qui sont. 7 personnes, bon, ok, sur des milliards d'individus. Bon, franchement.
Bon, Nathalie, 20 secondes, allez, là-dessus.
Bah, moi, j'ai un peu le. Je ne veux pas dire. Enfin, je veux dire, ça ressemble à effectivement ce qu'on a pu dire sur les entreprises de tabac. Enfin, voilà. Donc, oui, enfin, je veux dire, je ne dis pas qu'ils sont tout blancs, mais bon, de là à aller dire qu'ils sont exactement responsables de ça, je trouve que le lien est un peu fort.
Henri, quelques secondes là-dessus.
Eh bien, moi, je trouve que c'est génial, effectivement. C'est génial que, effectivement, il y a des grandes entreprises, leurs décisions, ça a un impact énorme sur l'économie mondiale et sur notre planète, eh ben, c'est normal qu'on leur demande de rendre compte et que ce soit Total, que ce soit une banque qui... On a pris une décision disant on va réduire de façon importante les émissions de gaz à effet de serre. Ça suppose qu'on arrête, qu'on laisse sous terre une grande partie de nos réserves de pétrole et de gaz. Et juste à ce moment-là, Total nous annonce qu'il va forer en Angola. Il y a quand même un problème.
Ah, juste, bien 30 secondes, parce que vous, on disait, Eric, que c'est juste 7 personnes. Alors, 7 personnes à l'échelle mondiale, c'est rien. Mais je vous rappelle que l'État de Californie, ça c'est une première mondiale, a intenté le même procès il y a quelques mois et c'est en cours.
Assemblée générale de Total qu'on suivra, bien sûr, très attendu vendredi après-midi. 3 minutes avant la fin de cette émission, c'est l'Extra Time, comme tous les soirs. Vos coups de gueule ou coups de cœur sur 30 secondes. De chrono qui va commencer. Eric, tiens, qui est bien parti.
Moi, je voulais prendre simplement un petit coup de cœur, puisque effectivement, on a parlé de. Non, mais c'est vrai, d'habitude, je fais un coup de gueule, mais là, ce sera un coup de cœur. On a parlé beaucoup de business, Vivatech, Choose France, etc. Ouais. Mais en fait, je voudrais fêter l'anniversaire des 10 ans du décret de Montebourg.
Oui.
Donc, d'un autre Montebourg, qui effectivement, il y a 10 ans, nous a exhumé, en fait, un décret de 2005 pour éviter effectivement toutes les OPA.
Danone PepsiCo à l'époque, c'était ça.
Exactement, ça fait tout un bordel par rapport à l'Alstom. Qui devait se faire acheter par General Electric. Et donc, on est en plein dedans, quoi, parce que, alors, c'est peut-être moi qui n'ai pas trop compris exactement, mais on est dans un système où il faut vraiment investir. Et d'autre côté, on a mis en place ce décret, on a étendu, et puis plus rien.
Et voilà, et on en a parlé sur ce plateau avec Guillaume.
Absolument.
Henri Sterdignac,
30 allez-y. Secondes, Henri, allez-y.
Ben moi, c'est un coup de gueule. Désolé. Bon. Voilà, on a bientôt les élections européennes. C'est très important pour l'Europe d'avoir ces élections. On élit un Parlement qui va avoir de plus en plus de pouvoir. Et malheureusement, ben, il n'y a pas de liste européenne et il n'y a pas de programme européen. On ne sait pas exactement. Les partis n'ont pas de vision transnationale pour dire, ben voilà, on est pour l'harmonisation fiscale ou on est contre. On est pour les règles budgétaires ou on est contre, on est pour l'indépendance de la Banque centrale ou on n'est pas contre, et donc on vote pour des partis nationaux dont on ne sait pas quelle sera effectivement leur position au Parlement européen.
Mais il fallait y aller, Henri, oui, avec les économistes atterrés.
Allez, on crée une liste.
Attendez les professions de foi, on sait ça va arriver comme ça. Allez, Nathalie, c'est à vous, 30 secondes.
Moi, j'en avais deux, alors il faut que je choisisse. Je vais choisir, allez, je vais en choisir un des deux, ça sera le coup de gueule. C'était pour le Ouigo à 5 euros.
Oui, c'est bien.
Bah, oui, non, parce que d'abord, c'est avec notre argent. Et il fait du dumping, donc non, je ne suis pas d'accord. Je ne vois pas pourquoi il ferait du 5 euros, alors que les pauvres, je ne sais pas, le Trenitalia ne pourra pas s'ajuster. Donc je trouve ça incroyable qu'en fait, il n'y ait aucun problème aux 5 euros à Ouigo, alors qu'en fait, ça viendrait de quelqu'un d'autre. On dirait que ce serait du dumping. Donc,
voilà. Et oui, c'est ça. C'était une rude soirée pour la SNCF quand même sur ce plateau.
Ouais, c'est
ça.
Je pense que j'aurais pas passé autant de temps dans les bouchons, je pense que j'aurais choisi l'autre qui était le coup de cœur.
Je sens que ça a joué dans votre choix. Merci beaucoup à tous les trois, Nathalie Janson, Éric Haddad et Henri Sterdignac. Merci, à très vite avec plaisir pour nouvelles aventures. 19h54, c'est fini pour ce soir.
Et oui, bon, vous avez promis un débat animé, promesse tenue. Ceci dit, donc, ce débat est à retrouver si vous en avez raté une partie avec le QR code qui s'affiche sur vos écrans. Sinon, c'est en replay sur en podcast bfmbusiness.com. Et puis, on se retrouve demain soir.
Bah, bien sûr qu'on se retrouve demain soir, 18h pour nouvelles aventures. Dans un instant, donc Tech & Co, François Sorel et toute l'équipe.
Bonne soirée.
Good evening business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.